Salut tout le monde, bienvenue sur le Penkev Podcast, émission 31, donc saison 2, épisode 11, il me semble. Bon, c'est pas grave. Je suis aujourd'hui avec deux habitués, hein, deux très grands habitués même. Amaury, comment vas-tu ?
Eh ben, ça va bien, merci de me recevoir de nouveau.
Mais ça fait toujours plaisir. Et Pierre, comment vas-tu ?
Ça va et toi Flo, merci de me recevoir encore.
Merci de demander. Parce que ouais, je me sens un peu fatigué en ce moment. Je suis allé courir ce matin et je sens que les gens viennent... Il y a une séance vélo là que j'ai fait mardi, un peu intense, 1h45 d'intervalle et tout là. Un bel truc programme, je sais pas quoi sur Zwift. Et je le sens encore un peu dans les muscles en haut des jambes là, ça tape un petit peu.
Moi, si tu pouvais le sentir une semaine de plus, ça me.
Non, t'inquiète, pour Mallorca, moi justement, je serais bien frais.
Oh, ça sera complètement remis. Hein,
quoi je dois courir, je vais essayer de courir 93-95 portes cette semaine. Donc ça va peut-être me fatiguer un petit peu pour Mallorca. Mais bon, j'aurai le temps de me reposer les jours avant que vous arriviez, parce que moi j'y vais un peu en avance.
Ah oui, c'est vrai que j'anticipe pour récupérer les décalages horaires.
Ouais, c'est ça, c'est pour s'acclimater.
De quoi quel escroc ? Désolé monsieur, hein, c'est mon propre argent hein, qui me paye ce moment sans travail que je suis en train de vivre. du coup, hein, vous connaissez le format de l'émission. Donc on va partir directement avec les premiers petits faits insolites, j'ai envie de dire.
On est prêt.
Allons-y.
Alors le premier, Deontay Wilder, vous le connaissez ?
Boxeur.
Le boxeur. Il a fait quelque chose que je pense que beaucoup d'athlètes aimeraient faire. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est lié à son sport ou rien à voir ?
Là, c'est lié à son sport en l'occurrence. Il a fait. Mais beaucoup d'athlètes.
De manière générale, beaucoup d'athlètes.
De manière générale, pas cantonné à ce sport, aimerait faire, je pense. Ce que ça peut s'appliquer à plein, ce qu'il a fait, ça peut s'appliquer à plein de sports différents.
C'est légal ou illégal ?
Non, c'est légal, c'est légal.
Il a gagné quelque chose ?
Non. Bon, on peut dire ça, mais ça va te mettre sur une mauvaise voie.
C'est par rapport à ça rapporte de la thune ?
Non, ça rapporte pas de la thune.
C'est lié au fait qu'il a tapé quelqu'un ?
C'est lié au fait qu'il a tapé quelqu'un.
Donc il a tapé quelqu'un que tout le monde a envie de taper ?
Oui.
Ah, d'une certaine manière. Mais légalement, dans un combat.
Légalement, dans un combat.
C'est quelqu'un de connu ou c'est genre un type de quelqu'un qui fonction particulière.
Ça allait peut-être être mon prochain indice. C'est pas une personne en particulier, c'est un type de personne.
Un flic.
Non.
Oula. Je retiens ce que je dis.
Attends, moi, je suis un peu coloré, pas comme vous. C'est sur mon podcast qu'on commence à faire des blagues comme ça. Ça va le finir.
Ok, c'est par rapport à un métier en particulier.
Non, c'est pas un métier.
C'est un combat officiel qu'il a organisé du coup ?
Non, c'est pas un combat. Bah, le combat est officiellement organisé, mais c'est pas un combat officiel où il y a une genre toute une promotion et tout. Ouais.
C'est quelqu'un quand même.
C'est quelqu'un qu'on aurait tous les trois envie de taper.
Non, pas spécialement, parce que je pense pas qu'à notre niveau d'athlète que nous sommes, on soit vraiment embêté par ce genre de personne.
Un arbitre ?
Non, c'est pas un arbitre. Oh, alors là, oui, tous les trois. Non, c'est pas un arbitre.
Donc c'est lié à une fonction comme l'arbitre.
Non, c'est pas lié à une fonction. C'est un type de personne, mais c'est pas une fonction.
Un juge ? Enfin, non, du coup, c'est pas un arbitre. Non. Qu'est-ce que ça peut être, un type de personne ? Un politique ?
Non, non, non. Ah bah là, je vous dis, on devrait mieux y aller sur la...
Bah, c'est pour ça.
Enfin, ça dépend de qui. En fait.
C'est pas, bon, US, c'est pas un...
Parce que moi, j'ai vu les photos de Macron qui boxe, j'aimerais pas aller en face de lui. Hein,
quand tu dis type de personne, c'est par rapport à, je sais pas, le genre. Ou alors...
Oula, tu vois, c'est un terme glissant.
Ben non, mais j'en sais rien.
Oula. Au moins, on va trouver tout de suite.
Un type de personne, le genre.
Non, mais je dirais par rapport à des attributs physiques ou des trucs comme ça.
Non, non, non. C'est plus par rapport à un profil de personne.
Un profil de personne. Putain. Mais qui est très lié au sport.
Ouais, pas qu'au sport, mais au niveau. Sport, il y en a beaucoup aussi.
Supporter ?
Non.
Les haters ?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un troll, en gros, qui n'arrêtait pas de le troller sur les réseaux. Il a fait, bah vas-y, on organise un combat, il a défoncé. C'est pour ça que je dis.
C'est risqué avec des
hookers. Il y a pas mal d'athlètes, je pense, qui aimeraient, parce que dans tous les sports, il y a des gens qui n'arrêtent pas de te dire, sais, genre de troller, ouais. Tu dis bah ça pourrait être le basket, bah, vas-y on fait un contre un, et les gens ils se rendent vite compte qu'il y a vraiment un monde qui les sépare, ouais. Ou des cyclistes ou des coureurs à pied, tu sais, quand les gens ils font oh là là, le nul, il a couru le marathon en 2h07. Il s'est trop traîné. Mais vraiment, ils sont trop nuls.
Tu fais 50 mètres.
Ouais. On va faire un marathon. Ou des trucs comme ça. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Parce que ça s'est passé quand même en 2014. Donc, c'était il y a 10 ans maintenant, mai 2014.
Il faut quand même être sacrément con pour aller
au surtout, combat face à Dan
surtout, surtout que le monsieur. Bah, je vais vous lire l'histoire. Après, je vais vous rajouter quelques détails. Parce que. Il s'est un peu senti trop protégé derrière son écran. Bon, après, il a accepté aussi ce connard. Donc, bon,
oui,
bah au moins, il était con jusqu'au bout.
Ah, à la limite, oui.
À la limite, on peut lui conseiller ça. Alors, Wilder s'est rendu à Los Angeles pour un combat en salle contre Charlie Zelenoff, un troll d'Internet qui l'a défié en lui adressant des injures. Donc, en fait, le troll l'a défié, ce qui est déjà très con. Quand tu vois Deontay Wilder, je vous invite à taper son nom sur Google et à mettre Google Images.
Oui.
Vous allez très vite voir ces genres de personnes que vous n'avez pas envie de...
D'énerver,
oui, non. Tout simplement. Ou même, d'embêter, le moins.
Non, moi, je l'aime bien.
D'importuner.
Je trouve que c'est une très belle personne.
De bousculer sans le faire exprès, de demander de vous tenir la porte, je ne sais pas. Alors, tout juste sorti d'une victoire avec son entraîneur Malik Scott, qui lui a permis d'améliorer sa fiche à 31-0. Bah, ça, c'était à l'époque, en 2014. L'Américain a accepté le défi de Zelenoff et a traversé le pays pour faire face à la situation. Wilder est arrivé au gymnase et a fait signer au troll une renonciation légale garantissant qu'il ne poursuivrait pas pour des dommages, avant de le frapper sans pitié dans le gymnase. Le fait qu'il portait deux gants de droitier n'a pas eu d'importance, car le troll a découvert la différence entre lui et un futur champion du monde des poids lourds. Et en fait, le troll est allé jusqu'à insulter sa fille à Deontay Wilder, surtout que Deontay Wilder, pour la petite histoire, il s'est mis à la boxe parce qu'il voulait trouver un moyen de payer des médicaments pour une maladie que sa fille a. Donc, autant dire que j'imagine qu'insulter sa fille, c'est pas non plus le plus intelligent. Bon, après, si tu veux te faire remarquer, apparemment, c'est là qu'il faut appuyer.
C'est réussi.
Mais donc, il s'est fait... Il a allé défoncer un troll.
Et depuis, il est dans le 2014, coma. Il est sur l'hôpital.
Le troll, on n'a pas de nouvelles. Il est enterré dans le gymnase sous le ring. Alors... Deuxième petite question. Un nouveau gadget de tracking pourrait bientôt faire son arrivée. Mais lequel ?
Gadget de tracking ?
C'est par rapport à un truc santé ou...
Oui, ça peut être utilisé comme un truc santé.
Mais pour les athlètes, pour améliorer la performance ?
Oh,
un peu comme ce qu'on
ça
parlait...
Ça peut être pour tout le monde.
Oui, ça peut être pour tout le monde, mais enfin comme
voilà, ça peut être plus
comme
plus
le comme là, le patch
plus,
de glucides.
C'est plus universel que le moniteur de taux de glucose.
C'est tracking GPS ou tracking de données
Pour l'instant, c'est tracking de données. Mais à mon avis,
de si données physiologiques,
enfin, mais physiologiques par rapport à ton, enfin ce qu'il y a dans le sang.
Données physiologiques.
Ça marche pour des sports en particulier ou c'est assez universel?
C'est universel.
C'est par rapport à un organe en particulier ?
Non, non, non. J'ai envie que vous trouviez le gadget. Hein. J'ai dit quel gadget ? Pas forcément.
Ah, donc genre un anneau ou une montre ou...
Oui, voilà.
Donc une montre ?
Non, ben non, parce que du coup, ça existe.
Bague ?
Non, ça existe aussi.
Un collier ?
Non plus.
Une casquette ?
Non, c'est pas une casquette.
Une puce que tu mets à l'intérieur de...
RFID. Des lunettes.
Non, c'est pas ça. Un implant de Elon Musk. Des lunettes. Non, ce ne sont pas des lunettes.
Une oreillette.
Non plus.
Que tu mets dans le nez.
Une chaussure.
Une oreillette dans le nez.
Une chaussure connectée.
Une chaussure connectée. Non, non, non.
Est-ce que c'est un vêtement ?
Vous avez déjà eu d'ailleurs les chaussures connectées. Il y en avait à l'époque au foot et au basket.
Ah oui, dans les semelles. Ouais.
Les Nike.
Ah.
C'était les Nike Plus, ça s'appelait, je crois.
Mais Adidas aussi, ils ont fait des semelles avec
Adidas,
des puces.
Ouais, ils avaient ça. Et je me rappelle Adidas, ils avaient la chaussure de Dwight Howard, soi-disant, à un moment. Ils avaient des microprocesseurs dans la chaussure. Et suivant l'impact qu'il avait quand il redescendait, tu avais des microprocesseurs avec des câbles et ça tendait la chaussure, en fait, la semelle, donc ça la rendait plus rigide ou ça faisait plus d'amorti. Bon, c'est un grand succès, on s'en souvient tous.
Oui, voilà.
Non, mais moi j'avais les Nike où tu mettais les deux puces dans la semelle, en dessous là, je sais pas comment on appelle ça là, la semelle que tu peux détacher en vrai, mais, et ça te disait. À quelle vitesse tu avais couru, à quelle hauteur tu avais sauté et tout. Et pour le basket, c'était assez cool. C'est avec l'app qui se connectait, c'était assez rapide, c'était vraiment sympa.
C'est un vêtement ou c'est un accessoire plus...
C'est un accessoire.
Ok.
C'est un objet qu'on a par ailleurs. Enfin, c'est sur un objet qu'on utilise par ailleurs ou c'est complètement nouveau.
Ça, je sais pas. Non, je vous ai jamais vu avec.
Est-ce que c'est un accessoire qu'il faut pour avoir les données, il faut le porter pendant une certaine période ou c'est juste un truc que tu utilises à un certain moment
donné? Non, faut le porter.
Ok.
Et c'est un objet ou c'est un truc qu'on ingère ou
c'est un objet, c'est un objet. Ouais. C'est un accessoire.
Qu'on porte sur le corps, quoi. C'est pas un truc qu'on a besoin d'ingérer ou quoi que ce soit.
Qu'est-ce que ça peut être ? Il n'y en a pas des millions. C'est un patch ?
Non, c'est pas un patch.
Un bracelet ?
Non, c'est pas un bracelet.
Mais c'est un truc de ce type-là ou...
Ouais, c'est un truc de ce type-là. Hein. Franchement, vous êtes pas long.
Hein. On a fait quoi ? On a fait bague, collier,
un bracelet. Brassard ?
Non, c'est pas un brassard.
Un bandeau ?
Non, c'est pas un bandeau.
Casquette ?
Non, c'est pas... Il a dit casquette, c'est pas une casquette.
Un bonnet ? Non, c'est pas un vêtement, t'as dit ?
Non, c'est pas un vêtement, c'est un accessoire. Hein. Arrêtez de penser accessoire, catégorie accessoire chez Adidas, ça veut dire casquette et tout.
Une boucle d'oreille ?
Une boucle d'oreille, exactement.
Ah.
Voilà, c'est le seul truc que vous n'aviez pas dit en bijoux. Alors, les accessoires intelligents sont de plus en plus courants. Les bagues, les montres d'enregistrement, des données vitales, nanana, tandis que les Ray-Ban sont désormais équipés de caméras et de microphones, ça je n'avais pas, je n'avais pas vu passer. Les technologies portables ont même fait leur apparition sur les broches. Pourtant, certains accessoires n'ont pas encore reçu la touche intelligente. Des chercheurs de l'Université de Washington ont présenté la boucle d'oreille thermique, un vêtement sans fil, qui, bah, du coup un accessoire, bande de cons, qui surveille en permanence la température du lobe de l'oreille de l'utilisateur. Lors d'une étude menée auprès de 6 utilisateurs, attention,
ah, oui, c'est wow. Sacré panel.
La température du lobe de l'oreille de l'utilisateur, la boucle d'oreille s'est avérée plus performante qu'une montre intelligente pour détecter la température de la peau. Ben oui, mais ça me paraît assez logique. Pendant les périodes de repos, elle s'est également révélée prometteuse sur la surveillance des signes de stress, de l'alimentation, de l'exercice et de l'ovulation. Donc voilà. Donc si ça se développe, on peut imaginer que quand toutes les technologies se rétrécissent, c'est très facile de mettre un truc GPS aussi dedans. Mmh. Ça pourrait traquer ton activité. Hein. Tu pourrais... Ou même ouais, si toi t'es perdu, quelqu'un peut s'en foutre.
Oui, je suis pas sûr que j'ai trop envie de me balader avec des boucles d'oreilles. Mais...
Ouais. Ça sent le projet
bon,
étudiant.
Pourtant, je t'imagine bien avec deux petits diams là. Deux petits diams, un sur chaque oreille.
C'est bien mon style.
Après, ça met des petits scotch
sur le nez aussi.
Oui, ça pourrait être. Là, ils mettent dans l'oreille, mais je pense que tu peux le mettre sur le nez.
C'est la prochaine étape. Hein. Ah, prochain projet étudiant, l'année d'après, ils vont faire ça.
L'anneau NASA.
Ils savent plus quoi inventer.
Alors, quelque chose crée la discorde dans le foot anglais en ce moment. Mais quoi ?
Ah, est-ce que c'est par rapport à Ben White qui a refusé la sélection ?
Non, j'ai pas entendu ça. C'est passé quoi ?
Je crois qu'il a été appelé là pour le match, mais il a refusé. Apparemment, j'ai lu un article sur Eurosport.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il est un peu la cinquième roue du carrosse, alors qu'il est censé être le meilleur arrière droit à son poste. Donc, il y a un peu des frictions avec le coach. Quoi.
D'accord, mais c'est vrai que Southgate, il est un peu. C'est toujours Southgate, on est d'accord. Ouais. Il est toujours un peu. On va dire le reproche que les Anglais lui font parfois, c'est de rester un peu sur les mêmes équipes en prenant des gens qui ne jouent pas forcément en club.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et les mettre titulaires alors qu'il y a des gens qui sont titulaires dans les meilleurs clubs d'Europe. Qui
après,
sont
Deschamps, il a un peu fait ça aussi avec Giroud à une certaine période. Hein, donc,
Oui, à une période, mais bon. Après.
Mais Deschamps, il gagne.
Oui, mais c'est vrai que Deschamps.
Non, mais à un moment, il rentrait en remplaçant Giroud à la limite.
Ouais, ouais, mais je veux dire, même il y a des périodes où il ne jouait pas du tout, du tout. Il était quand même appelé encore en équipe de France, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais. Hey. Il nous a pas déçus. Hein.
Non, je dis pas le contraire, mais je veux dire, c'est qu'il est
ouais,
pas.
Mais le truc, c'est que Southgate, je crois que c'est plusieurs joueurs. Ouais, ouais. Et que bah, eux, par contre, ils ont pas un joueur du calibre de Giroud qui a prouvé que c'était la marche à suivre.
La légende.
C'est vrai. Mais du coup, pour revenir à ta question, on parle de foot ?
On parle de foot, ouais, dans le monde du foot anglais.
C'est lié au club pro ou amateur ?
Non.
Sélection ?
Ni l'autre.
C'est lié à la sélection.
Ah, c'est lié à la sélection.
Mmh.
Et au maillot ?
C'est lié au maillot.
Le nouveau maillot qu'ils ont annoncé.
C'est lié
là,
au
le...
nouveau maillot qu'ils ont annoncé. Bah,
c'est lié à la couleur, au design.
C'est lié à la couleur, mais de quelque chose de précis.
Il ouais, y a un truc chelou sur le côté. Je crois qu'ils ont fait un espèce de design et de coloris
non,
chelou,
c'est
pas ça.
Non, leur maillot, il semble assez simple. Hein.
Le maillot,
le maillot à domicile,
le,
on parle.
L'extérieur,
le
ils ont fait un truc
il
particulier.
Est blanc.
Et l'autre, il est noir avec un espèce avec de truc vert, rouge, je sais plus quoi sur le côté.
Ah oui, c'est vrai, ils ont un truc comme ça aussi en extérieur.
Mais bon.
C'est pas avoir une couleur. C'est sur le maillot ou le short ?
C'est sur le maillot.
C'est le logo ?
Ouais, c'est. Bon,
ou le col ?
Je vous le dis, c'est un des. Voilà, exactement. C'est le logo dans le col, enfin derrière, qui est la croix de. Alors attendez. La Croix de Saint-Georges.
Dire, tu ne peux pas t'arrêter là parce que c'est dangereux sinon.
C'est la Croix de Saint-Georges. En fait, il y a eu, elle n'est pas des couleurs normales. Elle n'est pas rouge sur blanc. Et c'est des couleurs qui changent. Et du coup, les gens. Même le premier ministre a fait son petit tweet. Nike, on ne plaisante pas avec les symboles de je sais pas quoi.
Nike, ils enchaînent les boulettes en ce moment.
Je vais vous donner un peu de contexte parce qu'au final, Nike, là, ils n'ont pas forcément fait une super beau. Tu as l'impression aussi que ça veut beaucoup créer un peu de buzz et que les politiciens se sont dit oula, il y a des gens qui n'aiment pas. Je vais dire que je n'aime pas non plus, comme ça, ils pourront voter pour moi. Alors, en gros, c'est. Vous avez aimé le débat sur le maillot de Tintin des Diables Rouges. Bon, moi, je ne l'ai pas vu le débat. Moi, je trouve qu'il est plutôt réussi, là, le maillot. Le maillot, second maillot, la bleu ciel avec le short marron pour la Belgique.
Ah oui, celui-là, oui, pour le coup, oui.
Il est pas mal, je trouve. Vous allez adorer son équivalent ou presque. Alors, les maillots n'ont rien à voir hein, pour les gens qui écoutent. Oh, shocking. L'équipementier des Three Lions a osé un crime de lèse-majesté sur le col du nouveau maillot de l'équipe nationale anglaise. Si pour beaucoup d'observateurs et observatrices, le nouveau maillot de l'Angleterre sont une vraie réussite, moi, je trouve pas perso le prix d'avoir vu. Mais bon, hein. Je suis pas un observateur ni une observatrice, donc que pèse ma voix dans ce débat. Pour certains fans et politiques, il y a un détail de 2 cm carrés qui ne passe pas. À l'arrière du col, la croix de Saint-Georges a été recolorée en nuances de bleu, de rouge et de mauve. Oui, la marque américaine qui équipe les équipes nationales anglaises a osé toucher à la célèbre croix rouge, symbole du saint patron de l'Angleterre depuis des siècles, présente notamment sur le drapeau anglais. Une vraie blague, s'est ainsi reporté Nigel Farage, l'un des grands artisans du Brexit, et une pétition « Save St. George Cross in English Football ».
Ce serait marrant qu'ils demandent à Nike de reproduire tous les maillots.
Non, ils ne seront pas enlevés de la vente et il n'y a rien qui va changer. Donc, pétition fait son apparition en ligne, récoltant à ce jour près de 20 000 signatures. Donc, ça va, en faveur d'un retrait du maillot. La presse s'est emparée du sujet, elle aussi, relayant les propos tenus sur les réseaux sociaux où le mot woke a été associé à ce nouveau maillot, interrogé par la BBC. L'ancien gardien international Peter Shilton s'est déclaré plutôt défavorable à ces changements de couleur sur la croix. Je suis traditionnel, le rouge, le blanc et le bleu, mais il est français lui ou quoi, sont les couleurs de notre drapeau. Du coup, Nike a expliqué sa démarche via un porte-parole. L'objectif, c'était d'unir et d'inspirer en modernisant un classique les couleurs utilisées pour ce petit drapeau dans le col, mais aussi pour d'autres éléments du maillot, donc il y en a sur les manches, sont en fait inspirés du kit d'entraînement porté par les champions du monde anglais de 1966. Donc ça ne va pas de nulle part, et ça rend hommage à la seule équipe qui a gagné dans leur histoire du football,
oui,
une Coupe du Monde.
Peut-être que ça leur portera bonheur, je n'y crois pas trop. Mais...
Non, je pense pas. Non, mais ce que j'aime bien, c'est voir les réactions, alors que personne ne sait en vrai
tout, oui, c'est
quoi. C'est juste qu'ils ont vu un truc, parce qu'il y avait du mauve, ils ont dit c'est des woke, parce qu'ils ont dit on met un truc vite farc-en-ciel, allez hop, c'est du woke, et tout. Et ça a créé du coup un petit buzz pour rien du tout, et même un tweet du Prime Minister. Mais on reparlera de Nike et des maillots plus tard.
Oui, ça risque de revenir.
Alors, la prochaine petite histoire, on va rester dans le foot anglais même. Et il y a un match de première ligue féminine entre Chelsea et Arsenal qui a été reporté de 30 minutes. Est-ce que vous savez pourquoi ?
C'est à cause d'un conflit avec un autre match
pour
les droits de télé, un truc pas les droits de télé, mais pour la télé, non.
À cause du retard d'une joueuse.
Non.
Météo ?
Non, ce n'est pas la météo.
C'est un retard de quelqu'un ?
Non, il n'y a personne qui est en retard.
Le stade était fermé. Le gardien avait oublié de prendre les clés.
Oh, j'ai oublié ce match.
Ça arrive, sur
le calendrier. Non, non, c'est pas ça.
Pour à cause des spectateurs ?
Non, à cause de la télé, parce qu'il y avait un truc qu'il fallait retarder ?
Non.
C'est lié à une ou aux deux équipes ou
C'est lié à une équipe. C'est une équipe qui influence les deux équipes. En gros.
C'est une équipe qui a demandé de retarder le match ?
Non, 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 non.
Ou qui était en retard ou...
Non. Oh, y a encore plein d'axes à explorer là-dessus.
Ouais, oui, oui. C'est le coup d'envoi qui a été décalé.
Ouais, de 30 minutes.
30 minutes précises.
Bah, c'est ce que le...
Ah ouais, c'est important d'être
précis. C'est ce que l'article a titré. Mais qu'est-ce que ça change dans 32 minutes ?
Eh bah,
connard.
C'est important d'être précis dans ce genre de truc. Hein. Attention.
Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Pourquoi?
C'est une équipe qui a, c'est lié à
une. C'est par rapport à une personne en particulier?
Non,
ou...
non, c'est par rapport à une équipe.
Est-ce que c'était un problème? Enfin, est-ce que c'était.
C'est par rapport à une tradition.
Tout le monde était d'accord avec ce décalage-là? Il y a pas eu...
Ah, ben ils ont pas eu le choix. Hein.
Ça allait de soi, quoi.
Ça allait de soi, ouais.
Il n'y avait pas assez de joueuses dans le. Dans
non,
le...
non, non, c'est pas ça.
C'est par rapport à une tradition ou commémorer quelque chose?
Il y a eu un incident qui a créé ça ou...
Non, il n'y a pas eu d'incident qui a créé ça. Est-ce qu'on peut appeler ça un incident? Non, pas vraiment. Non, non, c'est pas un incident.
C'était pour rendre hommage à quelque chose?
Non. Non. Pierre l'a demandé déjà.
T'as dit, dit.
Oh là là, écoutez-vous entre collègues.
Je m'écoute pas.
Vous travaillez dans le même département, plus ou ça doit bien communiquer tout ça.
On se parle beaucoup trop déjà dans la journée.
C'est là le problème.
Et oui, hein, que ça pourrait bien être.
C'est un problème d'équipe, mais... c'est pas un problème d'équipe.
Ah, si.
Ah, si, il manquait des ballons?
Non.
Pour s'échauffer, il manquait des choses?
Non, 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 c'est un problème d'équipement, mais c'est pas.
Ah, maillots, il y a pas les maillots.
Les maillots, t'es pas là.
Bah, tu t'approches, mais c'est pas ça.
Les shorts?
Non plus.
Ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas les qu'ils avaient les mêmes couleurs de maillots des deux équipes.
Ah, t'es sur une bonne piste, mais c'était pas les maillots.
Les shorts?
Non,
les chaussettes.
C'était les chaussettes. Du coup, ils avaient les mêmes couleurs de chaussettes entre Arsenal et Chelsea, du coup. Ils avaient.
Ça pose problème, ça, les chaussettes?
Ouais, chaussettes blanches, les deux. Du coup, ils n'ont pas pu commencer le match. Et quelle solution a trouvé, du coup? Parce qu'Arsenal joue à Chelsea. Quelle solution a trouvé Arsenal pour changer les couleurs des chaussettes?
Celle qui joue à domicile a changé de chaussettes, quoi.
Non.
Ils ont mis leurs chaussettes.
Non,
ils ont mis leur tenue extérieure.
Tenue.
Ils ont enlevé les chaussettes.
Non plus.
Ils ont filé les chaussettes.
Ils ont coupé les chaussettes.
Leurs chaussettes extérieures.
Ils ont coupé les chaussettes.
Non, ils n'ont pas coupé les chaussettes.
Ils ont été acheter les chaussettes à côté?
Oui, mais pas n'importe où, du coup.
Dans la boutique du club?
Dans la boutique du club. Donc Arsenal s'est retrouvé acheter des chaussettes Chelsea dans la boutique du club.
C'est un peu problématique, quand même.
Bon, après, ils ont mis du scotch sur les logos de Chelsea et de Nike pendant le match, mais exactement. Donc
c'est pas très fair play de Chelsea, quand même.
Je sais pas. Après, au stade, je suis pas sûr qu'ils ramènent plusieurs paires de chaussettes, enfin plusieurs couleurs de chaussettes. C'est parce qu'ils c'est pas leur centre d'entraînement, donc j'imagine que tous les équipements n'étaient pas là. Oui, après, ils auraient pu
faire payer des.
Après, il y a la rivalité entre les deux clubs, donc je pense qu'ils en ont profité aussi. Voilà.
Le club londonien se dit
démerdez-vous.
Mettez des sous dans nos caisses un petit peu. Hein.
Vous avez fait une bourde.
Sinon, il y a un Sport Direct, mais après le match, faut repousser.
Mais qui a fait l'erreur?
Arsenal.
Ah, okay.
Ils sont venus avec des chaussettes blanches, ils n'auraient pas dû.
Ils n'auraient pas dû. Ils savaient qu'ils n'auraient pas dû.
Bah, je sais pas. Apparemment, je ne sais pas s'ils savaient. Après, je n'ai pas fait l'enquête sur savoir qui était responsable au sein du club.
Le chaussette gate.
J'espère que ces personnes vont être tenues.
Ouais, le pauvre intendant.
Donc voilà, petite boutique souvenir.
Même.
Pour compléter leur équipement.
Ah, mais du coup, il n'y avait plus de chaussettes pour les fans.
Ah bah. En plus, c'est surtout l'élément qui se vend le plus.
C'est vraiment le truc que t'achètes.
Bon, bah ça, les jours de match, figurez-vous.
Vous serez surpris de voir ce qui s'écoule le plus vite chez nous. Le fan de Chelsea aime les chaussettes.
Mais pourquoi Chelsea joue avec des chaussettes blanches et ils ne sont pas en bleu, normalement?
Bah là, ils jouent avec chaussettes blanches. Je sais pas. Peut-être qu'ils avaient décidé, ils savaient que Arsenal jouait avec chaussettes blanches, ils se sont dit bon,
on va leur casser les couilles.
On va leur casser les couilles et mettre des chaussettes blanches, puis comme on est chez nous, on va dire bah non, nous, c'est notre équipement à domicile. Par contre, je comprends pas pourquoi les chaussettes, elles sont de la même couleur, moi ça me pose un souci.
Oui, s'il y a un maillot bleu, soit un maillot rouge, bon.
Ouais, non, je crois que c'est plus pour l'arbitre. C'est genre, tu vois, quand t'as des contacts pour pouvoir voir un peu plus facilement qui a taclé quoi. Ou...
Qui a quelle jambe.
Ouais, voilà, c'est plus ça, je crois, mais.
Après, tu me diras parfois d'avoir des couleurs différentes, l'arbitre il voit pas. Hein. Par exemple, finale de l'Euro ou le Portugal, l'arbitre ne reconnaît pas le bras de Eder comparé au bras de. Ça, c'était qui? Koscielny? Non. Qui c'est qui était
Bon, il s'était passé quoi?
Qu'est-ce qu'il siffle? Une main de.
Contre le Portugal?
Je sais plus, alors,
j'ai oublié ce match.
C'était la main d'Eder, mais en finale, il a cru que c'était la main d'un joueur français, je crois. Il siffle le truc alors que bon, bah, le joueur français, c'est un blanc, Eder, c'est un noir. Et puis, ouais. Donc, on se peut juste plus penser à ça, le fait d'avoir des couleurs différentes lors des contacts et quand les joueurs sont près les uns des autres. Bon, j'ai mis la question la plus dure pour la fin.
Oula.
Parce que celle-là.
Parce que
vraiment...
c'était censé être facile jusque-là.
Ah, c'est... Oh, c'est ouais,
je suis sûr que c'est celle qu'on va deviner
en deux secondes.
Vous êtes allé vite. On est à 25 minutes. Franchement, et là, c'est la sixième. Enfin, j'ai découpé Arsenal en deux. le pourquoi et ensuite la solution. Oui. C'était deux questions. Donc là, on est sur la sixième. Et d'ailleurs, la petite news sur Arsenal, j'envoie un petit coucou à Emma, celle qui m'a partagé la nouvelle.
Ah, t'as des auteurs maintenant.
Ah ouais.
Des
autrices. Ouais, parce que la dernière fois, Cécile m'a partagé une news, Pierre a trouvé en deux secondes. Mais là, au moins, Emma, elle m'envoie des trucs qui tiennent la route. Ça anime un peu le podcast.
Le bon petit tacle sur Cécile, là. Elle va apprécier.
J'espère qu'elle a les bonnes chaussettes. Alors, la dernière. Qu'est-ce que le man-ball ?
Le man-ball ?
C'est un sport ? C'est un sport. Bien vu.
Avec une balle.
Avec une balle, un sport de balle.
Sport qui ressemble à un autre sport ?
Ça peut ressembler à un autre sport, ouais, on peut dire ça.
C'est un mix de plusieurs sports ?
C'est joué que par des hommes ?
Non, c'est pas un mix de plusieurs sports.
C'est joué que par des hommes ?
Non, je pense que c'est assez universel.
Ok. Mais man, t'as dit, hein ?
Man ball.
Le nom peut nous aider à trouver le sport ?
Ouais.
Man ball. C'est lié à l'île de Man ?
Non.
On va tenter au moins.
C'est assez universel, tout le monde peut le faire. Tu vois des gamins de 6 ans à 200 km/h sur l'île de Man.
Man ball. Ça se joue à. C'est un sport collectif.
Ouais. C'est un sport collectif.
Donc c'est deux équipes qui s'affrontent.
Ou ça peut jouer tout seul.
Ah
bah attendez. C'est,
là encore, on n'est pas très précis. Hein.
On est au balbutiement de ce sport. Alors, excusez-moi de ne pas avoir tous les détails et le rulebook.
La fédération de man-ball
officiel. Non, la fédération, il me semble qu'elle n'existe pas encore. Hein.
Ah, il y a moins de man-ballers que de coulisseurs.
Alors ça peut se jouer en équipe ou solo.
Ça peut se jouer en équipe ou solo.
Enfin, solo en contre quelqu'un. Donc,
en équipe de combien ? Mais du coup, en équipe de combien ? De,
bon, ça,
de, pas, de a... deux
en... Ouais, deux, c'est bien deux.
Ouais, c'est pas vraiment un sport co, quoi. C'est...
Ça joue sur un terrain.
Est-ce qu'il y a un filet ?
Il y a un filet.
En extérieur ?
En extérieur, mais je pense que ça joue aussi en intérieur.
Ah. Pas de raquette ?
Il n'y a pas de raquette.
C'est un gros ballon ou c'est une balle ?
Sur un terrain de tennis ? C'est une petite balle de paddle ?
Alors attends, ils mettent un peu les dimensions, mais là. Non, c'est pas... ni tennis ni paddle.
C'est une balle de comme une balle de tennis ou c'est une balle un peu plus grosse qu'une balle de tennis ?
C'est plus gros qu'une balle de tennis.
Balle de foot ?
Non.
Volley ?
Balle de handball, quoi.
Non. Ouais, à peu près dans cette taille-là, mais...
Comme pas, le spike ball, ça, un truc comme ça ?
Pas avec la même forme.
Non, il y a un filet.
Bah, c'est pour ça. Spike ball, il y a un filet, c'est... techniquement.
Non.
Non, il n'y a pas de filet, là.
Si, le filet est sur le...
Ah oui, ok, d'accord.
Bah, c'est vrai que j'aurais pu faire le malin en disant si ça avait été spike.
Bah, surtout que t'aimes bien faire ce genre de piège à la con.
Oh,
donc,
du long, monsieur. Moi,
maintenant, je me méfie.
Non, pas du tout, moi, du. Alors là, je vois pas de quoi vous parler. Alors, donc il y a un filet, non, c'est pas le spike ball.
Il y a un filet, ok.
La balle n'est pas ronde.
Le filet, il est une.
La balle n'est pas ronde.
La balle n'est pas ronde. Putain.
Non, mais en gros, c'est un sport. Mais en fait, ça vient de quelque chose de très précis.
The man.
Ça vient de les origines de ce sport en fait sont vraiment intéressantes.
Il faut qu'on trouve d'où ça vient, ça peut nous aider.
Non, en fait c'est la question, faut trouver ce que c'est quoi.
C'est un sport, c'est britannique, c'est européen comme sport plutôt.
Non, pas du tout.
Ah.
Alors britannique n'est pas européen.
Asiatique.
Oh, excusez-nous monsieur.
Bah non, ok. On...
tout ce qui fait le sport spécial, c'est la forme de la balle.
Ouais, la forme de la balle qui rappelle les origines du
sport.
Du sport. Ça, en fait, ça a été, la balle a été...
C'est une balle ovale ?
C'est ovale. La balle a été adaptée, basée sur comment ce sport a commencé, en fait.
Le rugby ?
Non.
C'est le football américain ?
Non plus.
Ah. Ovale.
En fait, à la base, on ne jetait pas une balle.
Un frisbee ?
Ça peut peut-être vous aider.
Enfin, on jetait un frisbee à la base ? Non, un truc comme ça, non ?
Parce que la balle est inspirée de ce qu'on jetait avant.
On jetait des pastèques ?
Non.
Mais un fruit ?
Un fruit.
Ah, on trouve un fruit ovale.
Si tu continues avec la région, peut-être tu vas trouver.
Ah.
Des pastèques ?
Non, il a déjà dit. Et je t'ai dit que c'est plus petit qu'une balle de rugby.
Non, mais j'ai bien compris. La région, de quelle région ?
Bah, il demandait les régions tout à l'heure, mais il n'a pas.
Américain, États-Unis ?
Non, c'est
Amérique latine.
Amérique latine, ouais.
Amérique latine, qu'est-ce qu'ils ont d'Amérique latine qui est ovale ?
Oula.
Des mangues ?
Exactement.
C'est des mangues.
Mangues, M-A-N.
Voilà, exactement.
Ah oui, mangue ball ou mangue ball.
Donc là, tu joues avec des mangues.
Donc en fait, à la base, c'était du lancer de mangue. En fait, le but de ce jeu, c'est que chacun a une balle et que tu la lances en même temps de l'autre côté.
et après il faut pas que ça touche le sol. Donc en fait, tu dois toi contrôler où tu envoies ta balle, mais en même temps tu dois faire attention à où arrive la balle de l'adversaire. Et en fait, c'est ça. Et donc, quand ils étaient adolescents en Amazonie, les frères Hildebrando s'amusaient à se lancer des mangues en même temps, l'un devant attraper le fruit lancé par l'autre avant qu'il ne tombe par terre. Ce passe-temps a été transformé en un vrai sport pratiqué dans plusieurs régions du Brésil avec des règles bien précises. Alors, les mangues remplacées par des ballons ovales, du coup, le manball, comme a été baptisée cette curieuse discipline, a fait son chemin jusqu'à la célèbre plage de Copacabana, à Rio de Janeiro. Pardon.
Oula.
J'ai pas le budget pour mettre des vrais bruitages derrière, c'est moi qui l'ai fait. Où sont pratiqués de nombreux sports en plein air. Oui, bon, bah ça, notamment le beach volley. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, il y a deux petits Français là, qui, en beach volley qui montent très très fort.
Ah bon ?
Ils tapent tout en jeune. Et bon, en senior, ils se font un peu taper encore, mais parfois, ils battent des équipes du top 10.
On les verra pas aux JO, quoi, du coup.
Oh, si, on peut les voir aux JO, mais ils feront pas, sûrement pas un dernier carré ou un truc comme ça. Mais à mon avis, les journalistes, lors des compétitions au début, s'il y a des matchs, ils vont en parler, ils vont donner un peu leur...
C'est pas deux frères ou un truc comme ça, en plus.
Non, c'est pas des frères.
Non, ça, c'est ping-pong. Ping-pong, ça.
Ah oui, non, ça.
Et eux
mais je crois qu'il y a aussi au beach volley.
Ils sont vraiment chauds aussi. Eux, c'est des vrais...
Ah bah eux, pour le coup,
c'est une chance de médaille.
Bah un, en tout cas, un des deux, surtout.
Oui, en double aussi. Et en double, sûrement. Et en double aussi.
Non, je crois qu'il n'y a pas de double au JO. Je crois qu'ils ont que le par équipe mixte. Il y a double mixte.
Ah oui, t'as raison. T'as raison, je crois qu'il y a un truc.
Il n'y a pas de double masculin.
Non, le plus jeune est plus fort que son grand frère. Mais après, on ne sait jamais. Parce que son grand frère, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps.
Mais moi aussi. Ah, t'as vu l'intérieur sport ?
Non, c'était pas l'intérieur sport, je crois. Non, c'était un YouTuber qui a fait. C'était pas mal. J'aurais dû noter d'ailleurs ce que c'était pour les recos, mais j'en ai une autre. Donc pas grave. Vous tapez sur YouTube, c'est les frères.
Lebrun.
Lebrun, voilà, exactement. Et le plus grand a plus de blessures que le plus jeune. En fait, le plus jeune, lui, s'est développé aussi beaucoup plus tôt. Mmh. Et sa technique de jeu est inspirée des joueurs chinois.
Mmh.
Et du coup, ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus de.
D'effets.
D'effets. Il a 100 services différents.
Voilà, exactement. Et donc, bah, c'est intéressant, hein, on ne croirait pas, mais c'est vrai que regarder un match de haut niveau. Je ne comprends pas comment ils arrivent. En
c'est
vrai,
fou, ouais.
C'est vraiment une discipline. Ça fait partie des disciplines où je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ça, de comment tu peux faire ça. Quoi. Genre, la vitesse où ça joue, c'est assez incroyable.
C'est des brutes. Ouais.
Bon, alors, tout ça pour dire que le manball se joue sur un terrain à peu près de la taille d'un terrain de beach volley. Donc, on revient du ping-pong au lancer de mangue. Ce qui est une transition.
Sans transition, bien sûr.
Ouais, d'accord. Donc, comme je vous disais, il faut attraper le ballon qui vient de l'adversaire, et vous devez envoyer le vôtre en même temps. Ce sport compte environ 2000 adeptes. Alors, bon, c'est un pays de 200 000 adeptes.
Plus que le Quidditch, du coup.
Plus que le
Quidditch.
Ouais,
je crois
qu'il y avait plus pour le Quidditch.
Il y a plus de Quidditch.
Oui, un vrai sport, monsieur. Ouais, un vrai sport réaliste.
Non, c'est vrai.
On court avec des balais, excusez-moi. Là, il y a de l'accessoire. Là, il y a du savoir-faire.
On court avec des balais.
Une balai dans le cul.
Je ne connais pas cette version du Quidditch.
Ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de morts.
Tu dois être inscrit dans une ligue bizarre, toi, mais moi, j'ai jamais.
Je touche pas à ce point-là, moi.
Abracadabra, j'ai fait disparaître le balai et je vais aussi savoir où il est. Alors, le manball reste donc encore relativement confidentiel au Brésil, immense pays de plus de 200 millions d'habitants, mais il a été reconnu officiellement comme discipline sportive par le conseil municipal de Belém en 2016.
Ah, quand même, bravo à eux. Hein.
C'est reconnu officiellement comme discipline sportive. Et à mon avis, il y a des trucs qui ont été reconnus discipline sportive qui sont moins physiques que ça.
Oui, ça, je suis d'accord.
Ça doit se trouver. Oui.
Voilà, les gars, c'était la dernière petite news que j'avais à vous faire deviner.
Ah, bien.
Nous devons être autour des 33 minutes, 34 minutes. Et on a pas mal de choses à dire sur les faits marquants de la semaine et aussi sur ce qui va arriver ce week-end. Donc, je propose qu'on commence avec les JO.
Ah, on peut,
comme d'habitude, parce que là il y a pas mal de choses à dire, mais je voudrais commencer avec un truc. Un certain monsieur qui n'a pas terminé un décathlon depuis juillet 2022.
Mmh. Ouais.
Monsieur Kevin Meyer qui a abandonné un décathlon à San Diego, là, qui se termine aujourd'hui du coup. Il a abandonné après la quatrième épreuve, enfin pendant la quatrième, le 100 en hauteur.
Ouais.
Et du coup, bah, ce qui le met dans une situation un peu délicate, c'est qu'il n'a toujours pas fait les minima pour les JO. Alors que si normalement il n'est pas blessé, c'est une grande chance de médaille pour nous.
En théorie aussi.
Ouais, le truc, c'est qu'il est tout le temps blessé. Là, hier, déjà, je suis vite fait, là, j'avais lu un article qui disait que deuxième épreuve, je ne sais plus ce que c'était, il a perdu genre une pointe.
C'était son longueur.
Ouais, il a perdu une pointe et du coup, je sais pas quoi, il s'était un peu fait une torsion du genou. Et donc déjà première blessure, alors qu'il est, enfin, sur un truc à la con. Merci. C'est ça, c'est son sponsor, ça encore, Nike.
Ah, mais ça.
Bravo,
mais Nike, la qualité, ça baisse, hein, ça baisse.
Ah,
de
ça
ouf,
y est
hein.
Plus, ça y est plus.
Et après bon, quoi
après,
et après.
Taf,
et...
Moi j'y vais. Par contre, moi je veux bien les aider à remonter la qualité. Moi, je suis un pirate.
Ça se négocie.
Et après, il a abandonné sur en hauteur. Sur blessure à la cuisse, je crois. Ou
ouais, ça pas grand-chose
ouais,
pour le coup.
C'est ouais, c'est à juste... l'adducteur droit, il a dit. Ouais,
une contracture ou un truc.
D'ailleurs, dans l'article que j'ai vu, c'était West France, je crois. Il précise, d'après son auto-diagnostic, tu sens un peu le.
Ouais.
Je sais pas. Le...
Il est un peu faible mentalement, je trouve.
Un peu, c'est laissé aller sur une certaine remarque derrière en sous-jacente. D'après son auto-diagnostic, c'est son adducteur droit.
Il fait tout tout seul, maintenant il a plus de coach, il a plus
ouais.
rien.
Donc et plus personne ne veut l'entraîner parce qu'apparemment il est insupportable.
Bah, c'est lui qui a dégagé son coach en l'occurrence. Et maintenant, je crois qu'il a un de ses meilleurs potes qui est officiellement son coach. Mais bon,
Après, son frère est kiné aussi ou sa copine.
Et ouais, voilà, sa copine. Bah, il s'est juste fait son propre groupe, mais grosso modo, il s'entraîne tout seul.
Par contre, là, je suis un peu chaud pour qu'on le critique parce que si jamais, du coup. Il veut faire un décathlon contre nous. Moi, ça me ferait grave kiffer d'essayer un décathlon.
C'est vrai, quoi, je suis chaud.
Ouais.
A priori, c'est quand même pas grand chose. Il a juste fait. C'est ses coachs qui l'ont arrêté. Lui, il voulait continuer le concours.
Ah, ok.
C'est ses coachs qui ont demandé à l'arrêter parce que justement, pour pas que. Parce que s'il se blesse maintenant, pour le coup, s'il se blesse sérieusement maintenant, les JO, c'est terminé. Donc là, ils ont dit, en gros, ça a rien de prendre le risque maintenant, sachant qu'il y avait en plus encore une deuxième journée à venir le lendemain. Donc ils disent qu'il vaut mieux récupérer, il y a encore assez de décathlons jusqu'au...
Oui, je crois qu'il a encore plusieurs, il disait qu'il avait encore plusieurs dates de... décathlons potentiels.
Un décathlon, ça te laisse une marque sur le physique assez intense. Quand même.
Ah, c'est plus ça, c'est pour ça que lui, il aurait bien voulu insister, mais c'était trop risqué parce que c'était quand même...
Mais bon, après, en soi, s'il se qualifie, c'est sa dernière grande compétition, même si... Tu vois, je veux dire, il ira avec des antidouleurs, ce que tu veux. Il fera son truc, tu vois. Il fera ce qu'il pourra. Il fera ce qu'il pourra. Mais
parce qu'il a quand même la dernière fois, il abandonne au.
Ouais. Après, t'as des blessures, t'es obligé d'abandonner. Mais.
Mondiaux en Europe.
Bah, il fait quand même. Il fait quand même la médaille aux Mondiaux, je crois. Et après Europe,
ouais,
il le fait.
2022,
pas. Ouais, mais
2022.
Ouais. Mais c'était, après, ça, c'était peut-être les Mondiaux. Hein, c'était
non,
sa dernière.
L'année dernière, les Mondiaux de Budapest, il abandonne.
Il a
abandonné, c'est le relais au final. Alors que lui, c'était tout le monde se disait ça va être la seule médaille. Au final, il a abandonné et le relais 4x4 masculin nous a sauvé.
Bon, après Décathlon, ils en font aussi que
un ou deux par an.
Oui,
sur les années où il n'y a pas de compétition, là, il a fait les Mondiaux, il n'a pas fini, mais c'est pas comme s'il avait.
C'est vrai que c'est un peu des brutes. Hein.
Donc, c'est vrai que c'est assez, puis c'est assez exigeant, puis surtout t'entraîner.
Il faut être bon partout. Il
faudrait surtout qu'il valide. En fait, c'est plus qu'il faudrait qu'il valide son ticket pour les JO et qu'après il puisse se préparer comme il faut. Là, c'est plus ça qui fout le bordel, c'est qu'il est toujours entre deux. Il doit bosser pour quand même au moins avoir là. Parce que c'est pas le genre, c'est quand même les minima, ils sont quand même assez hauts. C'est pas comme s'il pouvait les faire en étant à 70%. Il faut quand même qu'il soit.
Alors, il disait qu'il était 93% de son record.
Voilà.
Je trouve 93% de son record, mais il a le record du monde.
Oui, mais c'est pas 93%, c'est 83% de son potentiel.
Mais 8400 points et
parce que
du monde à 9003
parce que si tu prends, il a des records qui sont si tu prends tous ses records et c'est pas son record du monde il a pas tous ses records en même temps, tu vois, donc c'est par rapport à ça, mais bon, je trouve ça vachement haut quand même, hein.
c'est
93% du record du monde, mais ça c'est vraiment c'est parce que c'est les minima français, ça, on parle pas des minima olympiques là,
je pense que ça doit être les minima olympiques quand même.
Je suis pas sûr
hein.
Alors qu'on a on a deux écathloniens, et ben on va mettre des minima plus durs que des minima.
Décathlon, il n'y aura aucun intérêt.
Je sais pas. Mais ouais, je trouve ça bizarre.
Bon. On va rester sur les JO pour le prochain. Pour parler un peu des groupes, il y a eu le tirage au sort pour le foot. Est-ce que vous les avez en tête? Sinon, je peux vous les donner et ensuite.
Je crois qu'on s'en tire bien.
Je crois que je les ai, ouais. Mais bon.
Alors, je vais vous dire. Tournoi masculin. On a États-Unis. Ouais. Ensuite, on a le vainqueur entre la Guinée et une équipe asiatique. Pour l'instant, c'est pas encore, ils sont pas encore qualifiés. Et la Nouvelle-Zélande.
Ouais, ça devrait. Par les États-Unis, les
je
autres.
Je vais vous laisser parler un petit peu. Qui veut parler un petit peu du.
Bah, le truc, c'est que
parce qu'il y a la situation aussi avec la situation.
Ouais, enfin, c'est un peu avec quelle équipe tu vas, quoi. Parce que si tu vas avec la même équipe qu'à Tokyo il y a 2-3 ans.
Non, mais surtout, c'est que c'est impossible. En foot, pour le coup, masculin, surtout, c'est très dur de. C'est très dur de dire parce qu'on les connaît. Enfin, on connaît. Je suis incapable de dire qui fait partie même des, autres, des trois autres sélections, quoi. Même de l'équipe de France, déjà, je suis incapable de donner. Parce que comme c'est que c'est les moins de 23 ans qu'on y va, plus trois joueurs.
Ouais, c'est les espoirs en soi, non?
Ouais, c'est les moins de 23 ans, mais bon, plus 3, c'est que déjà, t'en envoies que 18 des joueurs sur les Jeux Olympiques. T'as pas un groupe de 22. C'est 18 ouais. plus 4 prêchés, enfin, plus 3. 4 réservistes.
3, hein.
Ah non, oui, c'est 18 dont 3 de plus de 23 ans.
3 de plus de 23
ans. Et 4 réservistes. Mais du coup, bon, nous, on sait à peu près qui on va envoyer, mais c'est dur de vraiment dire à quel niveau ils ont. Et puis, ouais, les États-Unis, Nouvelle-Zélande et compagnie, j'ai aucune idée de leur niveau. Donc,
je pense que les États-Unis, ça ne doit pas être trop mal, je pense. Parce
on
que...
peut penser avec les JO qui arrivent dans 4 ans, ouais, on sait voilà. qu'ils ont investi, donc les jeunes, ils doivent être pas trop mauvais. Voilà.
Bon, après Nouvelle-Zélande et la Guinée ou
après les États-Unis, les jeunes, ça va quand même être niveau collège. Hein.
Ouais, mais est-ce que c'est tant que ça moins bon que.
Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont quand même des. Je pense qu'en termes de jeunes, ils doivent avoir une compétition assez.
Bah, de toute façon, on les joue là, je crois, on les joue ce week-end.
Parce que l'équipe jeune française, là, pour le coup, elle est.
Ouais, il y a quand même pas mal de jeunes. Hein.
Solide, il y a des bons joueurs, mais bon, après, c'est les mecs qui jouent après, pas souvent ensemble.
Est-ce que les clubs ils vont libérer tous ces joueurs-là?
Il y a la question du Real avec.
Ouais, Mbappé. Mais ça, en plus, d'accord, mais sur les jeunes, déjà sur les jeunes.
Sur les jeunes, oui.
Est-ce qu'ils vont libérer tous les jeunes? Parce que tu as des jeunes qui jouent dans les grands clubs hein, et qui sont pas forcément libérés.
Non, bah c'est ça. Même en France, d'ailleurs, il s'est pas dit que ceux qui jouent en France soient libérés
j'ai
non plus.
Un joueur qui.
Je trouve ça dingue, mais.
J'ai
bon.
Vu un article d'un joueur qui serait prêt à venir en tant qu'un des trois. Une des trois
équipes. C'est pas Benzema, ça
ah bah, si, c'est Benzema.
Carrément. Ah ouais, non, mais.
Alors là... Je paye, Amaury.
Ah bah moi, j'attendrais. Hein.
Clairement. Mais il n'a pas le niveau, il a fait un an de. Arrêtez.
C'est un niveau quand même.
Non,
peut-être pas s'en aller. Il était Ballon d'Or l'année dernière, le Ballon
d'Or. Il y a deux ans.
Benzema, ils viennent pour faire un contrat pour faire l'opposition au foot. Ouais, et là, bah, moi, je donne tout pour voir ça.
Il repartira sans sa cheville, c'est pas très grave. Mais...
le ballon va passer, mais jamais le joueur.
Le gros bourrin. Ah ouais, ah ouais. Bah attends.
Oui, il est à la retraite. Il a. Enfin...
Ah, quand même, non, moi, franchement, si Benzema il veut venir. Après tous les bons qui tu peux faire, si tu peux faire venir Mbappé, Griezmann et compagnie, mais il y a aucune chance que ces mecs-là en puissent les faire.
Juste qu'il y a quand même pas mal de monde qui est au-dessus de Benzema en ce moment en équipe de France, devant à appeler. Hein.
Bah,
je pense que même un Giroud, il apportera plus qu'un Benzema, hein. Un Colomwani, un Dembélé.
Oh, non, bah déjà non, Colomwani. Colomwani déjà, il joue plus une minute au PSG.
Bon d'accord, peut-être pas Colomwani, mais Dembélé, il y en a d'autres.
De toute façon, il viendra pas parce que c'est Benzema en équipe de France, c'est terminé. Mais bon. Enfin, t'as quand même un mec qui est Ballon d'Or l'année dernière. Certes, il est en Arabie Saoudite, donc on le voit plus jouer, mais il est pas non plus. Si, ouais, le, mec, bon, si le mec, tu lui dis maintenant que tu lui donnes et qu'il se prépare physiquement pour être au taquet pour les JO, en plus, il jouera pas l'Euro, parce que c'est quand même tous les joueurs qui vont jouer l'Euro, c'est même pas la peine de les convoquer pour les Jeux Olympiques.
Tu dis pas ça de Mbappé s'il fait l'Euro.
Mbappé, c'est une exception, mais Mbappé, de toute façon, il sera pas libéré par le Real, donc le problème sera réglé.
Je pense que c'est pas fait, hein.
Sinon, juste pour vous dire, pour revenir vite fait sur Maier, les minima de 8460 points, c'est World Athletics. Là, c'est la France, okay. Pour le coup. Ouais. Mais du coup, oui, Mbappé, bon, avec le Real.
Bon, on va voir, donc ça dépend. Mais c'est pour ça que c'est dur de juger, pour revenir au groupe, c'est dur de savoir. A priori, ça a l'air d'être abordable, parce que c'est quand même pas des grandes nations du foot dans le groupe. Mais bon, avec ce format-là, U23, après, avec poules, savoir qui va être libéré, qui va être là.
C'est quoi, t'as 3 poules de 4, c'est ça?
Tu as 4 poules de 4.
4 poules de 4, ouais. Après, ne pas être dans les deux premiers de la poule, ça serait un peu scandaleux quand même.
Ça paraît gérable, mais
ouais, faudrait passer quand même.
À domicile en plus.
C'est pour ça, normalement ouais. Ça paraît gérable, mais bon, ça dépend de tellement de trucs qu'on.
Après, tout le monde a des équipes de jeunes. Le truc, c'est que certaines autres équipes, leurs jeunes, ils jouent aussi en gros championnat, ils sont libérés par les clubs et ils peuvent avoir du coup 20. C'est la limite, c'est 23 ou c'est 22?
C'est 23. Ouais. 23. C'est ceux qui sont nés en 2001, je crois.
D'accord.
Il faut être né le 1er janvier 2001.
Ah oui, ils ont 23 ans, ceux qui sont nés en 2001 déjà.
C'est comme ça que ça marche.
Ah oui, effectivement, c'est comme ça qu'on compte les années. Tu arrives plus près. Mais par contre, le groupe pour les filles, c'est un peu moins évident.
Ah, pour le coup, c'est nettement moins évident. Ouais.
En plus, j'ai vu que les filles ont 3 groupes, par contre. Pas 4.
Ouais, je crois que les mecs aussi.
Les mecs aussi, ils sont 12.
Hein, je crois que les mecs sont
que
12
équipes, hein. Normalement.
Tirage au sort du tournoi olympique masculin, Paris 2024, groupe A, B, C, D.
Ah, ok.
Ouais, c'est bon.
Pour moi.
Donc, voilà. Groupe 3.
Mais
groupe
du coup, les femmes.
Il y a trois groupes. Alors, les femmes sont avec la Colombie, qui joue pas mal.
La carte finale ou ouais, la Coupe du Monde.
Le Canada, qui
champion dans la Big Bandit,
joue pas mal. Et la Nouvelle-Zélande.
Bon,
ouais.
C'est je sais pas. Ah, c'est ça, c'est que je suis pas un expert non plus, mais a priori, ça a l'air d'être plus abordable.
A priori, ils sont meilleurs au rugby qu'au foot. Quoi.
Par contre.
Dans le, peut être dangereux, d'ailleurs.
Dans le groupe, après le niveau. Parce que là, les femmes, il n'y a pas de restriction d'âge.
Non, non.
Donc le niveau, il va être extrêmement élevé aussi. Parce que groupe B, États-Unis, bon, après qualifié, je ne sais pas quoi, machin, je ne sais pas qui ça va être. Allemagne, Australie. Mmh, ouais. Australie qui a battu la France au mondial.
Ouais, c'est costaud, ça. Ouais.
Allemagne, États-Unis. Groupe C, Espagne, champion du monde en titre. Japon.
Pas mal aussi.
Un qualifié, je ne sais pas quoi. Et le Brésil.
Ouais.
Donc,
enfin,
à la limite, la France.
On s'en tire peut-être pas trop mal. Mais...
S'en est peut-être tiré pas trop mal sur le.
Bah, Canada, c'est les champions olympiques en titre, mais elles sont moins fortes quand même qu'il y a 4 ans.
Et Colombie, ça reste jouable.
Colombie, c'est costaud, mais c'est, oui, c'est, bon, on les a battus à la Coupe du Monde, donc on peut penser qu'on peut les rebattre.
Et mais Hervé Renard a annoncé son départ, il me semble aussi.
Il n'a pas dit, mais il est sur le départ, mais c'est pas fait encore, je pense. Il n'a pas trouvé de point de chute.
Ah non, il sait pas où il va aller, mais il a déjà dit qu'il quitterait la sélection.
Parce que tu pars à la fin, tu dis je pars plus.
Ouais, je sais pas.
Donc voilà. Et on peut aussi rester sur les tournois de collectifs, parce qu'il y a les groupes de basket.
Basket, ouais.
Et que, bien sûr, le site des JO est tellement bien fait que.
Voilà, ça prend pareil. Hein. C'est les groupes, hommes sortent bien et les femmes.
Les groupes,
ouais,
c'est un sacré enfer. Oui, bon, les. Donc les hommes, ils ont la Lettonie.
Les hommes, on a le vainqueur du TQO qui est en Lettonie.
Ouais.
Qui devrait être la Lettonie, on ne sait pas. On a l'Allemagne, championne du monde.
L'Allemagne, championne du monde.
Et après, on a. Qui c'est qu'on a
j'ai oublié.
La dernière équipe. Mais un peu de Nouvelle-Zélande, on est comme ça aussi encore.
Ouais, c'est ce que je me demandais, mais.
Je crois pas.
Lettonie, Allemagne.
Et le Lettonie, ça vaut quoi?
Lettonie, c'est fort. Bon, ils ont battu au dernier championnat du monde. Donc,
normalement,
on est censé les battre. Bah, après, ils auront Porzingis qui va quand même revenir. D'autres font encore faut-il qu'ils se qualifient. Mais,
ouais, mais nous, on aura une arme qu'on n'avait pas au mondial.
Ça, c'est sûr.
Alors, non, le Japon.
Ah, Japon, oui, c'est vrai.
Qui peut être piégeux.
Oui, normalement, ça doit quand même passer. Mais non, normalement, on s'en sort quand même plutôt bien. On évite les gros.
Normalement, soit premier, soit un des meilleurs deuxièmes, c'est ce qu'il faut faire. En fait, parce que le tournoi, il est bizarrement fichu. Parce qu'il y a les meilleurs deuxièmes qui sont un peu traités comme des premiers groupes limites pour éviter les gros des autres groupes. Parce qu'il y a aussi des meilleurs troisièmes qui passent ou je ne sais pas quoi.
Oui, parce qu'il y a trois poules, je crois.
Il y a 12 équipes, il me
semble. Oui, c'est ça.
Donc, c'est un peu un micmac.
Il faut éviter les États-Unis avant la finale.
C'est pour ça que c'est bien foutu, parce qu'on joue l'Allemagne, du coup, champion du monde en titre, on les joue en dernier. Donc l'avantage, c'est qu'on sera un peu au courant de ce qui se passe dans les classements et là, ailleurs, et on pourra un peu être malin en disant, en fonction, pour éviter
là,
de jouer.
Il faut faire une espagnole. Hein.
Faut arrêter,
faut arrêter d'être les bons élèves à vouloir toujours
donc,
bien. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais en gros, les Français, on essaye trop à chaque fois de se dire, non, nous, on joue dans les règles.
Non, il faut calculer.
Et les Espagnols en face, ils sont là. Non, nous, on va perdre exprès. Comme ça, on se retrouve sur un tableau plus facile. Nous, il faut jouer pareil maintenant. Il faut arrêter d'être les gentils élèves. Là.
Sans le quart final, c'est le match le plus important. Hein. C'est celui-là qu'il ne faut pas perdre.
Ouais, après, tu as 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. Donc,
c'est sûr, il faudrait être malin.
Normalement, quart de finale, on peut y aller.
Là, et puis, encore une fois, le calendrier est bien foutu. Donc, on peut jouer contre l'Allemagne en prévoyant un petit peu.
Blessure de Koulibaly.
Oui, mais ça va.
Oui, mais il a dit qu'il devrait quand même. Jouer.
De la main.
Mais il n'a pas besoin de se faire opérer.
Oui, il n'a pas besoin de se faire opérer.
Ah, ça, c'est un bon truc.
Et puis c'est au poignet, donc c'est pas. Bon, c'est sa manière qui shoot, mais bon. D'ici le mois d'août, il sera remis.
Par contre, en basket, côté fille.
Alors là, par contre, ça va être un sacré.
ça va être un sacré bordel. Hein, parce que les Françaises vont se taper le Canada, qui est sur une pente.
Imima ascendante.
Oui, ascendante, exactement. Oui. J'ai cherché le mot.
Le sifflet était ascendant.
C'est une pente ascendante au niveau de leur niveau de jeu. Au niveau de leur niveau de jeu, ceci, c'est pas mal. Le Nigeria et l'Australie. Donc, il y avait le podcast de RMC Sport, Basket Time, où ils ont eu Boris Diot, du coup, manager de l'équipe de France masculine, et Céline Dumerc, manager de l'équipe de France féminine. Bon, les deux ont été très politiques dans leurs réponses. C'était à base de il n'y a pas de bon ou mauvais tirage.
C'est ça.
Un peu quand même.
Clairement, s'il y en a. Et la France n'a pas eu un bon tirage. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, la France, les autres groupes, c'est pas mieux.
Oui.
Donc, à la limite, là, ils peuvent prendre un match. C'est sûr contre le Nigeria, apparemment, c'est ce qu'il faut faire, mais ça va être vraiment compliqué en tournoi olympique là pour les Françaises.
Ah non, clairement. Bon, après, elles sont vice-championnes olympiques en titre. Donc,
elles sont vice-championnes olympiques.
Ouais. Pas des, c'est pas des clowns, hein, mais bon.
Y a, bah, elles n'avaient pas, sur la dernière compétition, Johannes et Williams, il me semble. Gabi Williams et Marine Johannes qui la reviennent.
Bah, on espère, parce que c'est pas encore sûr.
Ah non, mais si, si, non, parce qu'elles ont rejoué avec l'équipe de France déjà. En...
Mais les, oui, en théorie, oui. Parce que le deal, c'était que si elles jouaient pas l'été d'avant, elles n'avaient pas le droit d'aller au JO. Je pense que la Fédé un peu marche arrière.
Oui.
Oh, ça serait bien, ça serait quand même un peu malin, quoi.
Parce que là,
t'es deux meilleures joueuses.
La politique de Cécile Dumère, c'est de dire non, on va prendre match par match. Donc déjà, ça te dit exactement c'est quoi l'objectif. C'est d'essayer de sortir des groupes. Et si tu sors des groupes, t'auras fait déjà un bon tournoi, quoi. Après, à domicile,
ouais, ouais. Faut viser les yeux, ce qu'on est.
Ah, c'est toujours le problème. Donc là, de toute façon, on va trop l'occasion de calculer là. C'est...
Dans le tournoi, je pense que le tournoi féminin, il y a encore moins de soupçons de qui pourrait battre les US. Bah, personne. Là, elles sont vraiment les Américaines pour le coup. C'est,
ah ouais,
met 30, sont, si ça met des 30 points à tout le monde.
Ah. Oui, il y a pas mal.
Toi, Mbappé, quand il dit triplé, elle, c'est 30 points. T'es pas content, 30 points.
Tu sais jamais, ils peuvent s'embrouiller, il peut y avoir des blessés.
Voilà, a priori quand même.
Même s'il y a des blessés, je pense que avec les remplaçantes. Ou alors, toutes les blessées.
Tu sais pas ce qu'ils vont manger. Hein.
C'est vrai qu'on sait faire. Oh,
une ratatouille. Avec des vrais morceaux de rat dedans.
On peut s'en rire. Si, c'est comme ça qu'on les fait à Paris.
Non, si, c'est parisien.
C'est le rat statue.
Le rat statue. Le rat statue. Ouais, non, là, pour le côté féminin, c'est un peu mort hein, pour les. Pour les Françaises, malheureusement, mais ce sera un très, très beau parcours d'aller vers une demi-finale. Ce serait. Mais il va falloir taper des gros noms, ce qui n'est pas impossible, mais ça va demander un certain sérieux et un certain élan aussi, une dynamique assez spéciale.
De toute façon, avec le format à 12 équipes.
De toute façon, ouais, c'est ça, il n'y a pas de petites équipes.
Ah oui, là, c'est sûr.
Donc il n'y a que du gros. Quoi.
C'était fini sur la petite parenthèse JO. Maintenant, j'ai envie de vous parler de cyclisme. Qui veut faire un petit débrief de la Milan San Remo ?
Ben, écoute, j'ai vu que la fin, mais en gros, pour moi, ce qui s'est passé, c'était surtout à la fin. C'est dans le comment ça s'appelle la dernière côte ?
Le podio, c'est ça. Un peu avant, quand même. Mais
ouais, mais bon, ce qui est, enfin, là où il se détache, c'est que t'as une grosse attaque de Pogacar dans le podio après un gros travail de son équipe. Mais il part, il prend peut-être 50 mètres d'avance, 100 mètres d'avance. Et après, t'as Van Der Poel qui fait un gros effort pour le rattraper en partant d'un peu plus loin, qui le rattrape. Mais bon, dans la descente, ils sont tous les deux et les autres, ils sont qu'à une centaine de mètres. Même s'il reste 7 km, ils sont revenus dans la descente. Et après, il y a eu pas mal d'attaques dans le bas. Et il y a une grosse attaque d'un mec qui s'isole un peu. Et c'est Van Der Poel qui fait un énorme effort pour ramener tout le groupe des favoris. Ils étaient 8-9, je crois. Parce qu'en fait, il avait encore un coéquipier, Philipsen, dans le groupe. Et c'est lui qui gagne au sprint. Voilà.
J'étais surpris de voir que c'était Philipsen qui avait gagné. Un sprinter, en fait, qui avait gagné celle-là, sachant les noms qu'il y avait dans la course.
Mais c'était surtout.
Milan-San Remo.
Surtout voir Van Der Poel se sacrifier comme ça.
Il a déjà fait plein de fois.
Ouais, mais bon, tu te dis que.
Il lui a gueulé dans l'oreillette. Ils étaient. Parce qu'en fait, ouais, le podium, pour le coup, c'est une côte, mais c'est vraiment pas très pentu. Hein. Il y a 3% de pente, c'est ce qu'il le monte à bloc.
Ouais.
Je crois qu'il y a... Donc du coup, souvent les sprinteurs, tu entends, Cavendish l'a gagné aussi, le Milan San Remo. Enfin, de temps en temps, il y a un sprinteur qui arrive à passer.
Ah, mais c'est des marques, il a
gagné. Il passait les bosses pour le coup.
Démarre l'a gagné aussi.
Démarre l'a gagné, ouais, c'est un malentendu, mais il l'a gagné.
Il l'a gagné.
Mais voilà, non, pour ça, de temps en temps, il y a un sprinteur qui passe. Donc là, ouais, là Philipsen a réussi. Il avait dit dans l'os qu'il y a la Cipressa avant le podio où souvent ils font
le
ils sont montés à fond toute l'équipe de Pogacar pour écrémer les sprinteurs.
Ouais.
Philipsen a réussi à passer en disant je me sens bien et il a réussi à passer le podio. Et quand il arrive au sommet du podio, effectivement il y a Pogacar et Van Der Poel devant, mais il gueule dans l'oreillette à Van Der Poel en disant on bosse pas, je suis juste derrière. Quoi.
Mm.
Et du coup Van Der Poel là s'est mis à suivre toutes les attaques. Ouais.
Ah bah pas mal.
Mais la bonne nouvelle c'est qu'il y avait Alaphilippe aussi dans le groupe qui finit en tête.
Apparemment
il a parce qu'il a crevé.
Apparemment il a crevé un kilomètre de la fin, il a pas pu trop sprinter. Donc encore la poisse.
Il a un peu la poisse. Mais bon la bonne nouvelle c'est que la forme est là parce que j'ai vu qu'ils ont monté le podio. En gros quand il gagne lui aussi, non, il a gagné Milan San Remo il y a 2019. Ils ont monté le podio quand il attaque au sommet et puis il finit voilà. Et ouais, il finit au sprint après avec Sagan et compagnie, mais où ils sont plus que 2-3. Mais surtout, c'est qu'il monte le podio là 20 secondes plus vite que quand il a gagné le Milan San Remo en 2019. Ce qui est plutôt un signe de bonne forme.
Ouais, après, UAE avait.
Il était dans le même groupe ou pas?
Comment?
Il était dans le même groupe.
Non, il était dans le groupe, ouais, il était.
Non, mais il y a 2 ans. Enfin, quand il, l'année où il a gagné.
C'est un peu la différence, c'est qu'il y a 2 ans, c'était lui qui ouais. était devant, qui oui, attaquait, voilà, devant, et là il suivait.
Mais là, l'UAE, ils avaient annoncé qu'ils voulaient exploser le chrono justement du podio. Ouais. Ils avaient annoncé un chrono de je sais plus quoi, un certain nombre de minutes. Et au final, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Pogacar. Non, mais c'est aussi pour ça qu'il y avait encore autant de monde là-haut quand Pogacar a attaqué.
Ah ouais, ça a merdé parce qu'ils ont retrouvé. Ben, ils ont déroulé beaucoup avant. Et au début du podio, je ne sais pas ce qu'ils sont branlés, mais ils sont mal placés. Ouais, du coup, il n'y avait que Pogacar devant avec un coéquipier.
Le coéquipier
était complètement cuit. Donc lui, il a fait les 500 premiers mètres. Tu sentais qu'il avait qu'une envie, c'est qu'il y a quelqu'un qui vienne l'aider. Mais les mecs, quand ils sont venus l'aider, ils avaient déjà remonté tout le peloton, donc ils étaient déjà eux-mêmes cuits. Donc ils n'ont pas monté le podium aussi vite que ce qui était prévu.
Et ben, vous m'avez offert une transition magnifique avec la fin du Milan San Remo, avec Van Der Poel qui se sacrifie pour Jasper
Philipsen.
Je ne sais pas pourquoi, là, la fatigue. C'est cette disaster. Séance de vélo en Corse, de Zwift de mardi qui me tape dans le système. Donc le sacrifice d'un coéquipier pour un autre, et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui au Grand Prix d'Australie, entre le Logan Sargeant et Alex Albon. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Albon a cassé sa voiture, il me semble. Du coup.
Ouais, c'est ça.
Il la met dans le, c'est lui qui la casse ou c'est un problème mécanique?
J'ai juste lu qu'il avait eu un accident, mais je ne sais pas. D'accord.
Et du coup, l'équipe a dit « Hey, Logan, c'est quelle taille ta voiture là-bas ?» Parce que du coup, on va mettre Albon dedans, en fait, et toi, tu ne vas pas faire la course ce week-end.
Ouais, parce qu'ils ont dit qu'en gros, il a défoncé le fond plat ou je sais pas quoi et que c'était pas réparé. Il pouvait pas le réparer avant la course demain.
Du coup, Logan Sargeant, mais c'est Albon qui a le meilleur rythme dans la Williams. Et Albon a fait des déclarations déjà où il est super gêné.
Et lui,
il est pas trop en accord avec la décision. Mais ça fait vraiment un peu raquette, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est quelle taille ta voiture? Hey, mais viens ici, pars pas. Viens, c'est quelle taille ta voiture?
Ça, t'imagines?
Toi, tu fais tout bien. Oh les gars, bonne session. Oui, bonne session, Logan.
Bravo.
Bon, on va parler d'un petit truc vite fait. Non, mais garde l'énergie. Hein. Surtout, te sens pas abattu.
On ne va pas à l'hôtel, c'est bon, l'aéroport, c'est parfait.
Garde la voiture au parking 3, au terminal 2. Et puis nous, on va la récupérer, t'inquiète. Toi, tu peux rentrer. Non,
ce qui est drôle, c'est que Albon défonce la voiture aux qualifications demain. Oh. Ils ont zéro voiture. Ça serait très drôle quand même.
On peut penser qu'il va faire gaffe du coup demain.
Du coup,
c'est toujours un pilote de F1. Hein.
C'est vrai.
C'est le but, c'était le plus vite possible. Oui. Les gars, ils sont là. Ça passe.
C'est
ça
pas
ça
eux qui payent la voiture derrière. Donc bon.
Non. Enfin,
Williams, ça les fait un peu chier de remettre la voiture quand même.
On va surtout réparer une voiture complète. Comme ça,
et puis, ils savent que s'ils n'ont pas de gros salaire, c'est aussi parce que. Il n'y a pas trop de fonds, donc si jamais il faut mettre plus d'argent dans les voitures, ça va être difficile sur les négociations.
Au bout d'un moment. Ouais.
Non, donc voilà. Après, la course, elle aura lieu à 5h du matin dimanche. Bon.
On ne va pas se réveiller du
coup. Non, on ne va pas se réveiller.
Ça va être un peu compliqué de se
réveiller.
Surtout pour
voir Verstappen gagner.
Après, l'année dernière, il y avait 12 voitures qui avaient terminé.
Ouais, mais bon, tu peux voir le replay. Hein, c'est pas un...
Tu peux voir le replay, c'est vrai. Parce que c'est vrai que s'endormir, se faire réveiller par la musique de l'hymne national néerlandais, ça va un week-end, mais pas 15. Et là, par contre, j'ai aucune transition sur
l'hymne national néerlandais.
Sur l'hymne national néerlandais, qui est un pays qui ne fait pas partie des six nations.
ils font partie des six nations B.
Six nations B, et si on parlait des six nations A, merci Pierre pour cette transition.
Ouais, et parlons des destinations, parce que c'était le dernier week-end, le week-end dernier. On a battu les Anglais un peu à l'arrache, comme on dit, dernière minute. Mais sur un match que on méritait de gagner en soi, je pense. Parce que
contre l'Écosse.
Non, parce qu'en fait, il y avait plusieurs phases. Il y a eu première phase, on domine quasiment toute la première mi-temps et on mène 16-3 jusqu'à la dernière action où il marque un essai sur une erreur un peu de juste individuel de défense. Et au retour des vestiaires, ils nous remettent deux essais encore en 5 minutes. On n'est pas dedans pendant 10 minutes, en gros, on prend 3 essais. Ouais. Donc ils repassent devant nous. Et là, on remet ensuite un peu la marche, on met deux essais, dont un peu chanceux, on va dire. Sans rentrer dans les détails.
D'accord.
Bah, chanceux, parce qu'en gros, il rate une touche, la balle rebondit. T'as Ramos qui fait une tape dans le ballon sur un vieux coup de pied là, qui dévisse complètement. La balle, elle arrive dans le deuxième rideau. Ça arrive dans les mains de Penaud, tu sais même pas comment, et qui fait la passe, il essaie. Et ensuite,
sortir un truc d'arbitrage qui non, vu et tout. Au moins, c'est un fait de jeu.
C'est un fait de jeu. Et après, 5 minutes avant la fin, t'as les Anglais qui nous remettent un essai.
Ils sont chiants, ces Anglais.
Hein. Bien chiants d'ailleurs, mais qui jouent pas mal d'ailleurs.
Ouais, et c'est
ouais, pas mal. Après, je trouve qu'on
a une évolution comparée à l'année dernière.
En défense, on n'a pas été bon. Derrière. Mais ouais, les Anglais meilleurs que l'année dernière. Ouais.
L'année dernière est meilleure que le Mondial aussi, non?
Au Mondial, ils font quand même demi-finale. Hein.
Ah oui, non, c'est vrai qu'ils font partie. En fait, c'est la seule équipe européenne qui se retrouve en demi-finale.
Ah ouais. C'est la meilleure.
Excusez-moi, les Anglais. Oh, et puis, I'm sorry, my British
friends. Ils sont même pas loin d'aller en finale. Enfin, d'ailleurs, ils ont fait dur en finale.
Oui, c'est vrai.
Après, ils auraient des écarts un peu plus faciles que le nôtre, mais oui.
Ouais, c'est vrai.
Mais oui, d'ailleurs, ils ont battu les Irlandais la semaine d'avant. Donc, une grosse équipe.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, il marque à 5 minutes de la fin, il repasse devant nous de 1 point et on a quand même une pénalité à 2 minutes de la fin, on marque et voilà.
Ensuite, ça tire.
Donc voilà, et sachant qu'à côté, normal, l'Irlande a battu l'Écosse et du coup, termine première. Et par contre, meilleur tournoi pour l'Italie depuis le début, depuis leur début dans les 6 nations.
Avec deux
victoires, un match nul. Ils finissent quand même 5e. Parce qu'ils sont un point avec les bonus, ils sont un point derrière l'Écosse.
Ce tournoi était vraiment. Enfin, à part l'Irlande, qui a vraiment eu. Une... Ouais. Au final, la France a eu une défaite aussi.
Non, deux défaites.
Deux défaites, pardon.
Enfin, non, une défaite et un match nul.
Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Oui.
Non, mais ce tournoi. Et du coup.
C'était assez serré.
Jusqu'à la dernière journée, les classements pouvaient changer pas mal. Quoi.
Mais du coup, bon, c'est quand même. Sur la fin du tournoi, si on fait le bilan, c'est bien de voir des jeunes un peu. Puis quelques nouveaux joueurs qui vont apporter.
D'ailleurs, petite question pour toi, tu as regardé le match.
Ouais.
Le naturalisé qui a pu jouer son premier match.
Oui, non, il avait déjà joué la semaine d'avant.
Ah, d'accord.
Mais là, tu verras. Il a mis sur les fesses le Mauro Itoje. Il y a une action, il y a un ralenti où l'autre il vient et pour essayer de le plaquer. Et il rebondit. T'as plusieurs fois, en fait, sur tous les coups d'envoi, les Anglais ils tapaient sur lui. Et ils arrivaient à pleine vitesse pour essayer de le défoncer. Et à chaque fois, genre, ils rebondissent. Tu te dis, mais.
Il a un super pouvoir.
Franchement, il est incroyable à voir. Lui, il va faire du bien. Je pense qu'il va nous faire du bien.
Ah, bah cool. Il n'y a pas de transition non plus. Hein. Là, je suis désolé. Est-ce qu'on a déjà vu un rugbyman courir un 10 km en 27 minutes 07 Parce que c'est le nouveau record d'Europe établi par Jimmy Gressier. La course s'appelle le semi-marathon de Lille Métropole, mais en fait il y a un format 5 km, 10 km semi-marathon. Donc c'est sur cette course qu'il a battu le record d'Europe de Julien Wanders, qui tenait depuis pas mal de temps, qui était en 27 minutes 13. Donc voilà, hein, maintenant c'est fully français. Parce qu'avant il y avait moitié français, moitié suisse, quand Julien Wanders est moitié français, moitié suisse. En athlétisme, c'était pas encore décidé d'avoir une règle stricte. En gros, à l'époque, il n'avait pas choisi une fédération ou je ne sais plus quoi. Donc, c'était encore sous les deux drapeaux. Et là, il est 100% français.
C'est cool. Oui, pour lui.
C'est fort. Des records, on prend les records.
Sachant qu'il a gagné la course aussi. Parce qu'il bat au sprint le Kenyan, je ne sais pas quoi.
Exactement. Il gagne la course. Et du coup, ça lui fait... Ah non, il avait perdu le record d'Europe du 5 km.
Mais du coup, est-ce qu'il fait faire le 10K sur piste au JO ou comment ça se passe?
Lui, normalement, il fait le 10 000, j'imagine.
Normalement, c'est le 10 000.
Enfin, 10 000. Oui, 10K,
oui,
10 000.
Non,
oui.
T'inquiète, ça va. On est pas
excusez-moi.
Star. Non, mais on peut dire ça passe.
Non, parce que nos auditeurs, ils savent pas.
Une vague de haine dans les commentaires. Excusez-moi, les pistards.
Voilà, tu vas pas te faire louper là.
Après, un coureur de 10 000, je veux bien qu'il vienne. Et puis, on peut courir 10 000 s'il veut. Mais par contre, moi, je veux bien un combat de boxe. Moi, je suis
contre Wilder.
Si vous avez quelque chose à dire, moi je suis là, venez. Hein.
On lui fait signer une décharge.
passer à un autre sujet qui a fait un tollé dans notre petit microcosme, mais pas que. Un tollé presque national dans le pays où nous vivons. Je rappelle que nous vivons en Allemagne.
Ah,
une annonce.
Ah, j'avais presque oublié.
Une annonce. Là, on peut parler peut-être de crime de lèse-majesté, mais ah, même oui. s'il n'y a pas de
une trahison royale. Une trahison, alors
une trahison qui remet en cause une histoire de plus de 77 ans. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà deviné, c'est que l'équipe, enfin la Fédération allemande de football a annoncé sa signature avec Nike à partir de 2027.
Ouais.
Donc, grosse surprise du côté de tout le monde,
oui, bah, du coup,
côté
oui.
d'Adidas, du coup, côté des fans qui ne voient pas ça d'un bon œil pour l'instant. Les retours sont plutôt... plutôt mitigé, même plutôt dans le côté ouais. bien négatif.
Oui, en fait. Oui, sacrément mitigé.
Ouais. sacrément mitigé, les retours des banques.
Ouais, disons que ouais, les Allemands sont plutôt assez...
On n'a pas le montant exact.
Ouais. Pas encore. Ouais.
Mais on peut imaginer, si on devait dire un chiffre, ce serait trois chiffres, un petit 100 millions.
Oui,
je
oui.
pense
oui.
qu'on doit en être loin. Ouais.
Ouais,
parce
je pense
que Nike, c'est aussi apparemment, dans le communiqué de la DFB, Nike s'est engagé à investir aussi dans le grassroots, les clubs amateurs, jeunes, bon, on va voir. Ouais. À mon avis, Adidas,
je suis pas sûr qu'ils en aient besoin.
Adidas le faisait aussi, mais c'est juste que.
Ah, fallait bien justifier le changement.
C'est juste que le chiffre sur le Checo, c'est oui, voilà. différent et puis que.
Quand tu vois tous les terrains de foot qu'il y a ici en Allemagne, un peu partout, je pense pas que. Ils aient un manque de fonds, tu vois. Quand tu compares à ce qu'il y a en France, je trouve.
Non, ils ont pris l'échec.
Ouais, je crois qu'ils ont pris la thune.
Ah bah oui, ils ont pris. Ah oui, bah, il n'y a pas de secret. Hein.
Et tu dis d'ailleurs, ils se font taper dessus par tous les Allemands d'ailleurs. Donc, voilà.
Oui, l'Allemand est fier. Je sais pas
ouais,
si,
ouais.
Je sais pas si vous connaissez.
Il est patriote.
Un petit
patriote
plutôt. L'Allemand est plutôt patriote.
Patriote est fier.
Il aime bien quand c'est fait maison, l'Allemand. À la limite, Puma, d'accord.
Sans rentrer dans les détails.
Puma, Adidas, Jaco, ça va, mais.
Adidas, c'est fait. Maison en Bavière, alors là. Oh là là. Bon, on va laisser. Mais par contre, c'est que ça bouge pas mal l'échiquier en fait des sponsors de fédération, parce que Nike a payé pas mal d'argent pour ce contrat. On peut imaginer. En même temps, ils annoncent 4000 licenciements au niveau monde. Donc, bon, imagine, tu viens de te faire licencier, comme tu disais, Pierre, t'es en contact avec quelqu'un qui travaille chez Nike. T'apprends que tu te fais licencier et puis ensuite tu vois que tu signes une nouvelle fédération. Oh,
on va dire
bon, moi je sais à quoi j'ai servi quoi.
Il voilà. n'y a pas trop de
débat. C'est clair.
Est-ce que je peux avoir une part au moins dans l'accord?
Un maillot.
Bah, après ils commenceront à payer qu'en 2027, donc en soi c'est pas lié, mais je veux dire tu peux prendre ça, oui.
Non, mais ils ont annoncé ça aussi. En fait, l'annonce médiatique s'est faite très rapidement, plus rapidement qu'en général les délais quand on fait ce genre de signature. Parce que l'accord a été trouvé il y a quelques jours, même moins de 5 jours, je crois. L'annonce est déjà faite parce que ça tombait aussi le même jour que les annonces des résultats annuels de Nike.
Ah.
Donc, j'imagine qu'il voulait avoir des petites bonnes nouvelles à donner. Parce que même s'ils font toujours des très gros chiffres en numéro 1, ça ne va pas forcément dans la bonne direction.
Ouais.
Donc voilà. Mais du coup, ils n'ont plus le Portugal, qui est récupéré par Puma.
Mm-hmm.
Là, apparemment, avec Barcelone, on en a discuté la semaine dernière dans le podcast. Les discussions ne se passent pas très bien. Bon, après, le Barça fait une Barça. On
oui.
peut imaginer dire oui, on va faire ça, on va faire ça, et au final, pour juste faire monter les prix. Mais il y a un contrat qui s'arrête en 2028, par contre.
2026. Il y en a deux 2026. Ouais. Deux sélections.
Il y a la France, non?
France et Brésil.
Voilà. Et Brésil, ouais, ok.
Alors, Brésil, qui sont avec Nike historiquement depuis 1994, il me semble. Mais surtout la France.
Oui, parce que je pense que tu vas regarder.
France, le problème, moi, c'est une question de budget. Parce que si l'Allemagne est à 100 millions pour 2027, avec les résultats qu'ils ont là depuis 6 ans, et la France, les résultats qu'ils ont depuis 6 ans, le contrat, à mon avis, les négociations
après,
vont commencer dans pas longtemps.
C'est pas qu'une question de résultats. Ouais,
oui, c'est vrai. Il y a une question, tu regardes après tout l'impact que ça peut avoir. Bah, l'Allemand est fier. L'Allemand achète beaucoup de maillots. Mais le problème, c'est que si l'Allemagne.
Ils
sont éliminés direct, ils n'en achètent plus.
Au plus, ça dépend combien Nike est prêt à mettre sur la France aussi. Peut-être qu'ils se disent de toute façon, on a une position de leader là-bas déjà, on a le PSG, on a Mbappé, est-ce qu'on a besoin d'avoir la France?
C'est vrai.
C'est plus ça. Parce qu'ils n'avaient personne, ils n'avaient aucun club en Allemagne. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils.
Imaginons qu'ils se libèrent du Barça. Ils sont déjà libérés du Portugal. On peut imaginer qu'une partie des sous a servi à
Comment ça, ils sont libérés du Portugal?
C'est Puma maintenant le Portugal.
Ah ouais?
Oui, oui.
De partir de quand?
J'ai plus la date en tête.
C'est Puma qui a récupéré, oui.
Mais là, pas pour l'euro. Il me semble que là, pour l'euro, ils sont encore en Nike.
Peut-être l'année d'après. Mais ça, c'est plus récent que.
Ah, je savais pas, ouais.
Du coup, ça, tu peux dire, soit ils ont fait un trou dans la caisse, enfin, ils ont fait des économies pour pouvoir être avec la Deutsche Football. Je sais pas quoi là.
Fédération.
Association. Mais pour remettre. Ouais, pour parler de la France, j'espère que ça pourrait ouvrir une petite fenêtre. Et puis ça donnera aussi le. Par contre, ça donne vraiment aussi de. Comment dire, une marge de manœuvre à Adidas.
Bah c'est sûr, c'est sûr.
De plus avoir la DFB en 2027. Donc ça donne déjà une grosse marge de manœuvre.
Ouais, mais non, mais c'est sûr que. C'est sûr
ce serait beau de revoir.
Oui, et puis historiquement, la France, elle a quand même pas mal. Elle a quand même aussi une histoire avec Adidas. Donc,
Le coq sportif, ensuite Adidas, il me semble.
Et puis surtout Adidas, ça n'a aucun. Enfin, bon. Sans vouloir chier sur l'Olympique Lyonnais, mais enfin, bon, il n'y a aucun club Adidas.
On n'a rien en foot, d'ailleurs.
Mais si, à Strasbourg et Bordeaux.
Et voilà. Donc, bah, Marseille est parti. Il y a Lyon, mais enfin, bon, c'est pas ça. Donc, si tu veux avoir Paris, enfin, si tu as peu Paris et Marseille.
Non, ce serait bien.
Même pas Lens, t'as pas les gros clubs.
Et t'as pas de joueurs non plus super parce que t'avais peut-être Benzema, mais bon, il est un peu sur la fin. Et ouais, t'as pas Mbappé, t'as pas Griezmann, ouais, non, je sais pas trop où les jeunes.
Puis la star que t'avais signée à 40 millions, elle est suspendue 4 ans.
Oui, il est pas pour revenir.
Oui, c'est ça, t'as plus Pogba, t'as plus personne.
Ouais, le contrat était déjà sur la fin, il me semble, donc ça a pas trop impacté.
Mais... Ouais, mais les contrats joueurs, ils sont quand même beaucoup moins importants que les contrats.
Oui, justement.
Tu peux imaginer que Zidane va devenir sélectionneur à un moment donné sur la prochaine session de contrat.
Ouais, ouais, tu peux.
Non, ouais, il y a quand même de fortes chances que oui, qu'Adidas se positionne sur la France et sorte le chéquier.
De toute manière, c'est sûr, ils vont se positionner.
Et voilà, mais après, du coup, sorte le chéquier pour convaincre.
Sachant que. Mathieu, qui est le head Adidas de Europe, est français et que je pense qu'il a quand même aussi un peu d'influence à avoir et que
il est au match.
Il a quand même
une petite loge à Stade de France.
Il a quand même envie de ramener ça à la maison.
Ouais. Et du coup, juste pour parler vite fait, on aussi l'avantage d'avoir. Après, c'est dans 2 ans. Mais l'avantage que ça repasse chez Adidas, ce serait que les maillots, en ce moment, quand même, ça fait plusieurs compétitions, que ce soit féminine ou masculine, que Adidas met un peu une tôle et une vitesse au maillot de Nike niveau design.
C'est vrai que les niveaux design, Nike.
Et Copa, là ?
Ils sont claqués.
Ah, Copa ?
Les Nike, ils sont pas.
Ah, j'ai pas vu.
Le
non.
Brésil, ça passe. Parce qu'il
Brésil,
c'est
stylé. Le bleu après, est sympa. Ouais.
Le
mais Portugal est pas
côté
mal
Adidas, moi j'ai repéré déjà le.
Mais j'ai pas trouvé que tout était incroyable chez Adidas. Mexique, ouais, incroyable.
Ça, l'Allemagne, pour le coup, il est beau, je trouve.
Les deux sont beaux. L'Allemagne.
Le rose, il fait un peu scandale, mais ouais. C'est la pub et aussi bah, orienté.
Elle est bien, elle est bien.
Ouais, mais les traditionnels, ils vont acheter le maillot home.
Ouais, c'est ça.
Tous les un peu plus jeunes, machin quand même, ils vont acheter le fuchsia rose. L'Espagne a des couleurs intéressantes. Quand tu le vois porter sur des photos, franchement, ça passe. Après, ouais, ça me fait mal de dire.
Celui qui est drôle, c'est le belge, c'est le Tintin.
Oui, mais moi, je trouve.
Le Tintin, je trouve ça stylé. Et même le domicile même... avec les couleurs un peu différentes, je trouve ça cool.
Ils ont des couleurs stylées quand même, la Belgique, avec le rouge, jaune. Noir et jaune.
Ouais, ouais.
À chaque fois. En plus, ça s'appelle les Diables Rouges, donc tu peux vraiment faire des effets flammes et tout. Direct, tu vois, les effets flammes, comme ça, là, direct, c'est stylé.
L'Italie. Ouais,
l'Italie, il est classique, mais pas incroyable.
Ouais, pas incroyable.
Non, l'Italie, il est classique. Mais côté Copa, il y en a qui sont vraiment pas mal, il me semble.
Ouais.
Donc voilà. Donc ça ferait. Je serais curieux en fait de voir là tout ce qui est mis dans l'énergie créative niveau des dizaines des maillots mis sur un maillot français. Parce que le maillot Nike, je trouve. Ça va, mais il m'excite pas de ouf.
Ouais, il est classique, quoi. Il est bleu. Ils ont changé la couleur.
Le coq, il est immense.
Le coq, c'est vraiment le coq de Wish. Il est affreux, le coq. En vrai. Il ressemble à rien. Genre un terrain vert et tout. Il fait une taille énorme.
Ouais, mais ça a dû être approuvé par la FFF.
Ah bah, tout est
pas. De fait, oui.
Par la FFF, par contre. C'est pas la FFF qui a approuvé.
Justement, c'est la FFF qui a approuvé le foot. C'est dire que
le rugby, il a fait au regard les cônes du foot. Il demande de notre avis.
Ils ont mis un gros coq.
C'est vrai, mon coup, Chinra, que nous, on est chez le coq sportif. Il nous demande de valider et croquiller. Ils sont bourrés, les Américains.
Voilà, on a trouvé la réponse.
Ouais, c'est pour ça que j'avais eu les gris. Non, mais ça, là aussi, tu vois le côté. J'ai bien aimé le côté vintage. J'aime bien le côté vintage, mais limite, je trouve que c'est un peu trop. Ils n'ont pas osé y aller assez.
Bah, faut est-ce que et du coup, ça fait un peu un
déséquilibre. Mais bon, après, je trouve qu'il est cool quand même.
Le bleu, il est pas, le blanc n'est pas très joli.
Ils sont assez classe.
Le blanc, il fait plus simple.
Sauf qu'ils sont assez classe en général, tous les maillots, mais ils sont très simples.
Oui.
Mais ils sont assez classe, mais très simples. Et du coup, bah, je ne sais pas. Ça fait un
parce
peu...
Que, par exemple, je me souviens que le maillot féminin, pour le coup, était pas mal, le blanc, avec des monuments de France.
J'aime bien le Away France, là.
Oh, dans le blanc, là, avec les lignes.
Je pense que ça peut être
bleu à ouais,
blanc.
Ouais.
Ouais.
Moi, je le trouve aussi là.
Moi, je trouve qu'il est pas mal, mais je trouve que ça fait maillot d'entraînement, ça fait pas maillot de foot.
Je sais pas, faudrait voir porté, parce que je pense que les lignes, tu les vois pas du tout quand ils jouent avec.
Ah, mais tu vois les lignes que sur photo.
Ah, c'est ça.
Oui, bon.
Le coq, tu le vois encore mieux en plus sur le blanc.
Il n'y a pas assez de rouge pour monsieur. C'est pour ça il n'aime pas. Il est ronchon.
Il est souvent ronchon.
Le Brésil, ils sont, pour le coup, ils sont fait chier sur le Brésil.
Ça va
sur le jaune.
Donc, je vous invite, ceux qui écoutent, à regarder sur Google les maillots parce que, oui, il y en a des bien, il y en a des moins bien, mais en général, ils sont vraiment. Et Amory vient de montrer l'image de la Discord de la Croix de Saint-Georges.
Non, mais ce que j'aime bien sur les maillots Nike, c'est le jeu de texture. C'est plus ça qui est pas mal. Genre, tu vois, pas sur les couleurs, mais sur les jeux de texture, je trouve ça pas mal. On n'en fait pas assez, je trouve.
Ouais, c'est vrai, mais bon, je trouve que. Je sais pas, en ce moment, c'est quand même plus excitant côté.
Et puis, c'est mieux pour nous.
Côté Adidas, oui, tant mieux pour nous aussi. Ouais. Sur ce. Avant de, je voulais vous avoir votre avis. Ou moi, je voulais parler d'un truc qui m'énerve un petit peu parce que j'ai vu sur TikTok quelqu'un qui a posté un résultat de marathon en montrant son Strava, alors qu'il est super content, 3h17 quelque chose, temps au marathon de Strava 3h15, donc temps d'activité 3h17, 3h15, déjà bizarre. Et j'ai réussi à choper le bib number
voilà.
Sur le truc. Je me dis, ton temps Strava, mon petit gars, c'est pas ton temps de course. Je suis allé voir. 3h19.
Oh, putain.
Donc, en fait, ça m'a fait penser du coup à un truc moi, qui m'énerve un petit peu, c'est les gens qui jurent que par le GPS, en plus globalement. Genre dans une course, c'est pas ta pour un semi ou pour un marathon, ta montre, elle peut être décalée avec le GPS. Tu peux courir plus en distance, mais la distance officielle, c'est la distance mesurée. C'est la ligne d'arrivée. Ouais. Donc, c'est le temps à la ligne d'arrivée qui compte. Ce n'est pas le temps sur ton Strava. C'est GPS, ce n'est pas précis. Et moi, j'ai déjà vu des cas sur la piste d'athlétisme Adidas, qui est une piste d'athlétisme homologuée World Athletics. On peut faire des records du monde dessus. Bon, j'en ai pas encore fait, mais j'y travaille. Je sais pas lequel faire. C'est pour un truc à la con. 200 km sur piste, personne n'a fait ça.
Moi, je suis sûr qu'il y a un con qui l'a fait.
Oui, en plus, c'est sûr. Et par exemple, je vois quand je coach des séances d'intervalle, des gens qui ralentissent avant les 200 mètres, par exemple, mais genre 5 mètres avant parce que
la montre
ou le téléphone affiche 200 mètres sur l'écran. Je fais, non. La piste, elle est mesurée. Non. Suis les distances qu'on te donne. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ces gens. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit mon nouveau record sur. J'ai fait. Pardon ? Non. Ça, c'est ton temps Strava, monsieur. Pas ton nouveau record, c'est ton officiel de la course. J'ai pris des virages. Ça, c'est pas mon souci.
C'est sûr qu'il faut. Ouais. Je suis d'accord que Strava, ça.
Arrêtez de jurer que par le GPS.
Ça ne marche pas surtout, ouais.
Ce qui compte, c'est le chrono. Voilà. C'est pour ça qu'on entend les gens biper à chaque kilomètre pendant les courses. Pas automatiquement, mais manuellement parfois.
Ah oui,
moi, je bipe manuellement sur les courses. Marathon tous les 5 km, je ne vais pas faire tous les kilomètres. Mais je regarde que le chrono, moi, je ne regarde jamais mon allure.
Ah oui.
Parce que je connais les temps de passage que je dois faire. En fait.
C'est pas con, ouais.
Donc, je ne vous recommande plus ça. Même si vous commencez la course à pied, ça peut t'induire en erreur. Tu vois une pace moyenne, tu te dis, c'est la pace que je dois avoir. Mais ta montre, elle te calcule moins de distance ou plus de distance. Du coup, ça peut te ralentir sur le temps final et tu ne comprends pas pourquoi j'étais à l'allure tout le temps. Oui, mais il fallait regarder le chrono et le temps de passage, malheureusement. Donc voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça, ce que j'avais vu sur TikTok.
Le coup de gueule de Flo.
C'est important.
C'est important de savoir, surtout les gens qui commencent. Parce que moi, vraiment, pendant des courses, il y a des gens, ou avant des courses, qui me disent, comment ils regardent leur allure, ils disent, j'ai vu mon allure, c'était ça et tout. Je fais, ou quand moi, je leur dis, non, regarde le chrono, regarde pas l'allure, regarde le chrono et les kilométrages officiels marqués. Ils me demandent pourquoi. Ils n'arrivent pas à comprendre tout de suite que du coup, ta montre s'est basée sur un signal GPS, donc ce n'est pas précis. Alors que la mesure, elle a été faite.
Surtout que souvent le décalage il se fait au début quand t'as tout le monde qui part en même temps. Ouais. Souvent le premier kilomètre, la montre elle sonne 200 mètres avant la borne.
Tu les gardes les 200 mètres en plus sous la course. Moi j'ai déjà fait des marathons où si je m'écoutais, j'avais couru 43 km et quelques, et donc 42 quelque chose. Parce que moi je me suis bien arrêté au 4295. Je voulais.
Non, mais j'ai fini ma course.
Ouais, et j'en fais pas plus. Hein. Ça va, j'ai déjà souffert 3h10. Donc voilà. Donc pour les gens qui commencent, faites bien gaffe à ça, surtout que ça peut être piégeux pendant les courses. C'est tout ce que j'avais à dire. Pouvons-nous passer aux recommandations ?
Allons-y.
Je peux vous dire un Zac en roue libre super intéressant avec Gaël Clichy.
Ah oui, j'ai vu les extraits.
Qui dure 2h40, il me semble, même un peu plus. Et franchement, vraiment stylé. Je voyais des extraits passer sur TikTok et juste de voir les extraits en mode ça allait être des anecdotes. Sur quand il était joueur, donc tout ce que moi j'aime bien entendre des athlètes, dire que je passais, j'avais pas envie d'écouter, j'ai écouté l'émission en entière pendant que je courais, et franchement...
Il est en podcast, toi
Il est en podcast, moi je l'écoute en podcast. Et franchement, c'est super intéressant de voir, parce que je connaissais pas très bien l'histoire de Gaël Clichy, parce qu'on l'a pas vu tant que ça en sélection, parce qu'il est tombé un peu au mauvais moment avec les 2010, Euro 2012, choses comme ça. Mais du coup, lui, il était Euro 2008.
Oui, il a dû en faire plusieurs.
Non, mais je crois qu'il a fait 2008 et Mondial 2010. Et puis, malheureusement, après, il était blessé ou quelque chose. Enfin, il en parle et c'est super intéressant, surtout aussi de voir un peu son aventure signée si jeune que ça à Arsenal. Je crois qu'il arrive à 17 ans à Arsenal, en venant de Cannes. Hein. Il fait National 3, Arsenal direct. Et après, de son expérience à City. Parfois, il racontait des trucs, je rigolais tout seul en courant sur des anecdotes. Donc, je vous le conseille vivement.
Ok.
Qui veut
Moi j'ai vu un petit docu sur Canal, MyCanal, sur Ferrari et sur un hiver un peu Maranello, ouais.
Ça existe.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et quand en fait il te montre un peu comment ce qu'ils font l'hiver pour développer la voiture.
F1.
Ouais, c'est F1, accès F1, ouais.
Il y a tout encore là-bas.
Avec, il parle un peu avec chacun des différents pôles.
Ce qu'ils font en hiver pour développer la voiture,
Ouais, parce qu'en fait,
visiblement.
Oui.
Ouais, mais en fait, non, ils sont limités. Ils sont limités.
T'apprends
des trucs. Ils ont pas le droit, il me semble, pendant une certaine période de travailler sur la voiture de la saison. Il y a vraiment une période. Alors qu'avant, tu pouvais, maintenant, tu peux plus.
Et t'as des heures limitées de
test. Voilà, c'est ça. Sauf Fleury, ouais. Ça, c'est par rapport au résultat de l'année précédente. Mais il te montre un peu comment tu développes les pièces carbone, etc. Après, sans aller bien sûr trop dans les détails. Parce que...
Ils donnent toutes leurs études.
Non, mais parce que déjà, tu ne comprends rien. Et surtout, je pense que les autres écuries, ce serait peut-être un prenom, mais je veux dire...
Alpine, surtout, par exemple. Pour te nommer qu'eux.
Oui, ce serait pas mal. Parce
que... ils sont un peu lourds en ce moment.
Là encore... les qualifs. Enfin, les qualifs des essais libres.
Du coup, voilà, c'est cool. C'est pas très long, en plus.
C'est sur MyCanal, tu dis ?
Ouais, MyCanal, c'est
toujours une demi-heure. Et le titre Ferrari, tu le trouves
ou... Dans le truc sport, Ferrari, tu vas trouver.
D'accord, parfait.
Pas très précis, ça, encore, dis donc. Ce podcast, c'est quand même basé sur l'imprécis.
Je vais te le retrouver, attends.
Moi, je vais en faire deux, parce que c'est deux qui sont un peu liés.
Oh bah, vas-y, hein,
fais-toi plaisir. Je suis généreux aujourd'hui.
Quel homme.
Un premier, c'est deux ultra-trailers, en l'occurrence, qui ont monté une chaîne YouTube. Hein, enfin, c'est deux chaînes différentes. Hein. Le premier, c'est François Daem. Il a fait un documentaire sur son retour à la compétition.
Ouais, est-ce qu'il a fait une grosse pause ?
Il a fait, surtout, il s'est flingué complètement. Il s'est brisé la cheville, mais littéralement.
Ah, donc c'était ça la pause.
Ouais, ouais.
Oui, en fait, il s'est blessé, quoi.
C'était même limite.
Éclaté, d'accord.
C'était même limite fin de carrière. Et on s'était demandé s'il allait même pouvoir remarcher tout court.
Où il donnait des conseils à l'Américain.
Et du coup, il a été là pour aider l'Américain Jim Walmsley ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça.
À l'UTMB. Et il s'est fait un objectif, en gros, parce qu'il a fait des rechutes, etc. Ça le filme sur tout son retour à la compétition.
Faire des chutes entre elles, c'est commun.
Donc, elle demande la facture. et donc, du coup, ça le filme sur tout son retour à la compétition, donc sa rechute, sa rééducation. Et il s'est fixé comme objectif de faire la Diagonale des Fous l'année dernière. Donc il a fait la Diagonale des Fous, donc celle-ci aussi un peu pendant la course, mais bon, évidemment, il n'est plus au niveau. Enfin, en tout cas, l'année dernière, il n'était pas au niveau qu'il était avant, où il gagnait tout le temps.
Il l'a fait tranquille, j'imagine.
Pour le coup, il a vécu un calvaire. Mais c'est sympa de le voir à la course, de voir comment il est. Donc en gros,
qu'il est humain aussi un peu, parce qu'il y a d'autres courses avant qu'il se blesse. Quand tu vois sur la Diagonale des Fous, tu fais comment il fait.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est 45 minutes, c'est pas très très long, mais je crois que c'est sa chaîne YouTube à lui. Donc je recommande ça. Et puisqu'on est dans l'Ultra Trail, il y a aussi Mathieu Blanchard qui a monté sa chaîne YouTube maintenant. Et il a lancé, il fait toute une web série sur du ski alpinisme. En gros, il va faire la patrouille des sommets. Donc là, il a déjà fait 3 épisodes, les 3 premiers épisodes sont sortis sur la course qu'il va faire. Donc c'est par trio, c'est un trio, donc il le fera avec sa femme et un guide, enfin un mec qui est pro, ancien pro de ski alpiniste. Et en gros, c'est super sympa, tu le vois dans toute sa prépa. Donc le fait qu'il ne sait quasiment pas skier, donc il apprend à skier en même temps qu'il fait son...
Ouais, c'est vrai qu'il a vécu à Montréal, il ne sait pas skier.
Oui, c'est pas... À l'époque, il ne savait même pas courir non plus. Donc,
oui, c'est vrai.
Donc, bon. Et puis, donc du coup, non, c'est très sympa. Bah, déjà, lui, c'est un personnage qui est quand même sympa à suivre. Et donc là, ouais, il n'est pas trop suivi en plus encore sur sa chaîne YouTube. Donc je recommande les trois petits épisodes. Bah, ça va durer 20 minutes à peu près.
J'espère qu'avec notre audience, on va lui donner de la force.
Donc, voilà, allez lui donner de la force, allez suivre. La web série.
Un petit gars qui commence.
La patrouille des sommets, Mathieu Blanchard.
D'accord.
Ok.
Bah, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Ça m'a fait plaisir.
J'ai le nom de l'épisode pour toi, Amaury.
Ah bah oui, quand même.
Ferrari, un hiver à Maranello.
Très bien. Voilà.
Ah oui, bah en fait, c'est ce que tu avais dit en première phrase, du coup, pour expliquer ta reco. C'était le titre était
sans savoir,
bien choisi, du coup, parce qu'il a été bien retenu. Sans que tu t'en aperçoives. Bah, merci les gars, et puis je vous dis à la prochaine.
Et bah, merci
à toi. Salut.